Alors bonjour et bienvenue à tous pour ce sixième épisode du podcast Dans la tête d'un coach sportif. Aujourd'hui, je reçois un coach que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai pu discuter il y a un petit moment, qui s'appelle Quentin Randis. Mais avant toute chose, avant de commencer l'épisode, n'oubliez bien évidemment pas de lâcher le meilleur pouce bleu sur la vidéo YouTube, de vous abonner aux différentes plateformes qui sont disponibles en streaming, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer. On est disponible sur toutes les plateformes. À lâcher la meilleure étoile, 5 étoiles c'est le maximum, malheureusement vous pouvez pas faire plus, donc lâchez les 5 étoiles quand même. Mais également laisser les 5 étoiles sur la nouvelle plateforme de streaming No Minutes. Donc voilà, laissez vos avis et moi je vous laisse profiter de Quentin qui va nous partager son expérience. On se retrouve à la fin. Bonne écoute. Salut Quentin.
Salut.
Tu vas bien?
Tout bien et toi?
Nickel, super. Je suis vraiment content que tu aies accepté mon invitation de venir partager ici ton expérience de coaching sportif, de coach sportif. Mais après, tu es beaucoup plus qu'un coach sportif, tu es un entrepreneur. Mais on va se concentrer sur la partie coach sportif et tout ce qui l'entoure pour venir partager tout ça au coach sportif et en inspirer quand même pas mal. Déjà, avant toute chose, Quentin, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es?
Bah écoute, vas-y, rapido, c'est ce que j'ai fait. Donc je m'appelle Quentin, j'ai 30 ans. Je viens de la Savoie, donc c'est pas très grand au départ. Donc il a fallu que j'éclaircisse un petit peu, j'ouvre mon esprit à partir un peu plus loin. Et à 22 ans, je suis parti vivre aux États-Unis à New York. J'étais pas coach. Je savais pas où j'allais dans ma vie. De toute façon, c'était un peu. Je trouve qu'en France, on te demande un peu trop rapidement de savoir ce que tu veux faire dans la vie. Et j'ai été bloqué, je savais pas où j'allais. Et j'ai eu la chance d'aller dans une filière internationale parce que l'anglais me parlait déjà beaucoup. Donc, ça m'a propulsé aux États-Unis. Et quand j'étais là-bas, je faisais du foot américain et j'ai commencé à m'entraîner comme ça. Parce que j'étais l'aspect esthétique en soi, ok, c'était cool, mais je n'étais pas attiré par le body. Donc, moi, c'était la prépa physique, la performance. J'en parle maintenant parce que c'est ce qui en découle de mon style d'entraînement derrière. Et quand j'étais aux US et que je me préparais pour le foot américain, j'étais dans une salle de sport et on me demandait tout le temps des conseils. Et je me disais, putain, en fait, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Je voulais devenir du coup coach pour célébrité. Du jour au lendemain, je me suis dit, allez. Okay. Je vivais à New York avec des gars qui venaient de Floride et qui m'ont dit, mec, t'as le profil pour aller coacher des stars à Miami. Je fais, bon, bah, on va essayer. Ça, c'est pas fait hein, parce qu'au niveau des visas, c'est extrêmement compliqué. Du coup, je suis parti faire mes études à Sydney en fitness. Donc, c'est là où j'ai commencé à coacher en physique dans des gyms qui étaient extrêmement originaux et extrêmement riches en soi en termes de technologie, en termes d'avance déjà sur tout ce qui se proposait déjà, enfin qui était à l'époque en France, qu'il n'y avait rien en fait en France. Et ça m'a ouvert vraiment l'esprit à ce niveau-là. Tu vois, le premier gym où je suis rentré, il n'y avait pas de machine déjà. C'est là où tu commences à faire, ok, je suis où, il n'y a pas de, je n'ai pas l'habitude, je suis perdu. Et puis c'est là où le CrossFit a commencé à arriver. Moi, j'étais contre le CrossFit à l'époque, puisque j'ai été formé contre ça, même si j'aime ça aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'était vraiment fait pas ça. Parce que c'était tellement nouveau que les gens ne savaient pas où ils allaient, ils se blessaient. Donc, nous, on récupérait tous les gars du CrossFit à l'époque. Hein. Attention à remettre dans son contexte.
Bien sûr, je m'en souviens de cette époque-là où ça s'est lancé et que tout le monde
crachait
dessus.
Et c'était. Il y avait des vidéos fail parce que les gens faisaient ça à l'arrache, quoi. Mais ça a eu le temps de se discipliner over time. Et puis après, je suis parti vivre à Londres où je bossais toujours dans une filiale des entreprises dans laquelle je bossais à Sydney. Et puis, je suis rentré en France et j'ai rentré en France pour monter ma boîte Sync. Mais. En parallèle, pour continuer le coaching, vu que je faisais plus de coaching physique, j'ai commencé à développer mon activité en ligne, quoi, du coup. Et c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à me mettre dedans. Et ça fait là, en soi, je suis rentré il y a à peu près 4 ans. Maintenant, je vis en Espagne, parce que je peux travailler de chez moi, ce qui est plutôt cool et agréable. Mais du coup, j'ai commencé, je me suis focalisé différemment sur mon système de coaching dont on, je pense, parlera plus en détail, mais c'est aujourd'hui ce que je fais. Donc, je manage une boîte, Sync Protein, et à côté de ça, j'ai mon système de coaching en ligne.
Le coaching sportif.
Qui me permet de m'épanouir énormément parce que c'est super.
Ce qui est dingue surtout, c'est qu'en fait, t'as vu différents endroits où le fitness est pratiqué. T'as vu les États-Unis avec New York, t'es parti en Australie. Ça doit être ouf en fait d'avoir cette perception qui est différente, de voir comment ça se passe aux États-Unis, comment ça se passe ici, comment ça se passe là. Ça t'a aidé après pour ton coaching, tu penses?
Tu prends des gifles à chaque fois. C'est assez incroyable. En fait, j'ai eu la chance d'être, quand je faisais du foot américain en France, j'ai eu la chance d'être coaché par un vrai Américain qui était venu pendant 6 mois, enfin pendant une saison complète, même un an, et qui m'a énormément inspiré. Je relatais vraiment avec lui et j'avais tout le temps envie parce que mon père vivait aux États-Unis.
D'accord.
Et il était sur Los Angeles, il essayait de percer dans l'acting, sauf qu'il est décédé quand j'avais 13 ans. Donc en fait, ça m'a un peu laissé sur ma faim dans le sens où j'ai pas pu voir ce qu'il aurait pu faire et que du coup, moi, ça m'a motivé à suivre ses pas et à aller aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et le fait de, du coup d'avoir eu ce coach, ça m'a vraiment donné l'envie encore plus de me dire l'anglais c'est extrêmement important, parce que je me rendais compte que dans l'équipe j'étais un des seuls à parler anglais et personne ne comprenait ce qu'ils disaient et ils avaient l'air bien cons. Et je me suis dit mais il faut s'intégrer, ça ouvre des portes. Mmh. Je suis sûr, moi je le comprends, je suis sûr que j'aurai plus d'opportunités que les autres qui ne le comprennent pas. Et ça m'a maintenu dans l'idée. Et du coup, je suis parti à New York et là, c'est vrai qu'en effet, ça a été un game changer. Mmh. Là, t'as ton imagination qui explose quand tu sors, t'es à Times Square et que je travaillais juste à côté de Times Square et que tu viens d'une petite ville à Chambéry, tu vois, tu te dis putain, en fait, il y a beaucoup plus que ce qu'on nous montre aujourd'hui. Quand je suis rentré, j'ai pris un coup de pression. Sûrement, hein, Paris, je t'avoue que ça ne m'attire pas du tout et que je connais très peu la ville. Et ouais, rien que déjà de sortir de cette petite ville, tu vois, même si j'étais déjà là à Paris, je pense que ça m'aurait déjà chamboulé parce que c'était une grosse ville, forcément. Mais là, quand tu changes de continent, tu changes de culture, c'est surtout le plus choquant. C'est pas simplement la barrière de la langue, c'est l'aspect culturel qui est complètement différent. Les gens ne pensent pas comme des Français. Mmh. Et du coup, ça change tout, ça change ta perception, ça change énormément de choses. Et le fait d'être après parti de l'autre côté en Australie, qui est très américanisé, c'est l'Australie, typiquement, c'est tu prends les États-Unis, tu prends l'Angleterre, tu mélanges les deux et t'as ça. Okay. C'est vraiment, t'as beaucoup d'anglais et c'est plus des anglais british que tu as là-bas, mais sous une vibe culture nord-américaine, quoi. Mmh. Voilà. Okay. Et ça m'a beaucoup plu, forcément. Et d'autant plus que ce qu'ils proposaient, c'était extraordinaire. C'était d'autant plus extrêmement cosmopolite. Donc, tu rencontrais des gens de toutes les nationalités. Et de là, bah, après, tu peux plus revenir en arrière. C'est plus possible. Quand t'as ouvert ce genre de Pandora Box, tu vois, waouh, c'est pas possible.
Ouais, quand tu te manges la gifle d'aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, surtout quand tu parles justement en Amérique, ça te met des gifles, en fait, ça te remet en... Tu réfléchis beaucoup, mais je dis, attends, si ça, c'est possible, pourquoi est-ce que moi, je le fais pas, bordel? Pourquoi est-ce que ici, c'est comme ça?
Tu prends une d'humilité, ouais.
Clairement.
C'est incroyable, Et oui, ça m'a complètement inspiré pour après mon coaching de tout ce qui est mon style d'entraînement qui a toujours suivi avec la prépa physique et le coaching que j'ai mis en place était inspiré à la base de modèles américains qui n'étaient pas adaptés pour moi parce que je copiais des gens qui avaient des millions d'abonnés, donc forcément eux ils font de la masse, ils n'ont pas de contact réel avec leurs membres, mais j'essayais un peu de faire un truc similaire. Mais à mon échelle, quoi. Et du coup là j'ai enfin réussi à trouver plus ce qui me correspondait et là pour le moment j'en suis très content, et surtout au-delà de l'aspect monétaire, c'est plus l'aspect d'échange et de transformer des vies au-delà de l'aspect, encore une fois, physiologique cette fois, parce que c'est aussi dans la tête que je les travaille. Par mes expériences, je me rends compte qu'il y a tellement de lacunes au niveau mental, au niveau ambition, au niveau plein de choses, que je travaille les gens mentalement autant que physiquement et ils en sortent des hommes complètement changés.
Ouais. Parce que c'était justement la prochaine question que j'allais te poser, c'était pas le pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de devenir coach sportif? Là, tu as répondu un tout petit peu à cette question-là par rapport aux attentes et aux objectifs que tu te fixes à toi et à tes clients. Mais du coup, si tu pouvais le résumer, dire ok, pourquoi est-ce que toi, tu as vraiment décidé de devenir coach sportif et d'accompagner les gens?
Alors moi, ça n'a jamais été dans un optique court terme de t'aider à perdre 3 kilos ou te faire prendre 5 kilos de muscle. Ça n'a jamais été ça. Parce que, de mon opinion, d'avoir ce type d'objectif, c'est extrêmement limitant et ça ne montre pas une certaine passion ou même un futur dans l'entraînement. Ça va être un mec qui, je sais pas, ou par exemple une nana qui veut rentrer dans sa robe de mariée dans six mois, tu vois, qui veut perdre 5 kilos, ok, cool. Et après, elle va plus s'entraîner, tu vois. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux montrer aux gens que d'avoir un lifestyle où tu as ton entraînement qui en fait partie, cette transformation mentale qui en fait partie, ça devient ton identité. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu vas faire jusqu'à ton dernier jour sur Terre. Ce qui fait que je vais t'accompagner je vais être une rampe de lancement. Ce qui fait que je prends des gars sur 3 à 6 mois, après ils restent dans mon école, mais ils sont plus coachés de la même manière parce qu'ils sont censés être autonomes. Mais je leur ai donné cette rampe de lancement, toutes les clés, toutes les bases, et pouf, après ils volent de leurs propres ailes, mais ils continuent sur cette lancée. Ils ne laissent pas ça de côté, ils ne passent pas à complètement autre chose, ils restent focus sur cette philosophie, et du coup ça en fait des gens transformés. Et là, moi, il n'y a rien de plus gratifiant que ça, quand j'ai le retour de mes gars qui sont « putain, tu m'as vraiment aidé là-dessus, machin, c'est incroyable ». Et c'est même pas forcément, tu vois, je suis meilleur aux tractions, c'est au contraire, maintenant je me sens plus épanoui dans ma tête, c'est plus ce genre de choses. Parce que je dirais que le fitness, l'aspect physiologique de la chose, c'est, c'est un peu l'armure, c'est la coquille, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui te donne ta première confiance en toi, et qu'au final, c'est pas tout. Parce qu'une coquille, elle peut être brisée, alors qu'à l'intérieur de ta tête, certes, ce que tu as dans la tête, tu ne le vois pas, mais quand tu as quelqu'un d'épanoui à ce niveau-là, qui a pris une certaine estime de soi, de confiance en toi grâce à l'aspect physique, derrière, ils peuvent aller vachement plus loin. Si tu mets cette première fondation, en fait, derrière, c'est comme si tu ne mets pas les fondations, il n'y a rien. C'est ça, non, le problème.
Rien. Tu peux rien faire dessus, quoi. Tu peux rien bâtir au-dessus, quoi. Ok,
exactement.
Ça marche. Et du coup, c'est quoi ton parcours? Ça a été quoi ton parcours pour devenir coach sportif? Comment est-ce que toi, tu t'es formé de ton côté?
Ouais.
Explique-nous un peu tout ça, tout le petit parcours qu'il y a derrière.
Carrément, ouais. Bah, parce que oui, j'ai pas un parcours standard. En effet, j'ai pas le BPJEPS, j'ai pas fait STAPS ou ce genre de choses. J'ai fait la certification 3 et 4 en fitness qui appartiennent au milieu british, donc qui sont valables dans tous les pays anglo-saxons, mais enfin dans anciennes colonies anglaises, genre en Inde, enfin, je crois même Singapour, ce genre de truc. Je crois qu'à Hong Kong aussi, mais c'est en tout cas de manière sûre en Angleterre, enfin en Royaume-Uni et en Australie. C'est ce type de formation qu'il faut suivre pour être en mesure de coacher. Mais je dirais que c'est comme tout, ça te donne une certaine base. Et si tu t'arrêtes là, pour moi, t'es pas compétent. Parce que tu vas penser savoir tout faire et tu vas être là, ok, maintenant je suis coach, je peux t'aider à tout faire. Sauf que quand tu sais tout faire, tu sais rien faire, très clairement. Donc après, il faut se spécialiser. Il faut aller nicher dans un domaine qui, toi, vraiment te fait kiffer. Là où tu pourras t'épanouir davantage, parce que plus tu vas kiffer ce que tu fais et plus tu vas aimer apprendre derrière, et moins ce sera un travail. Parce que si tu te focalises sur des trucs juste parce que ça fait de l'argent, mais que ça ne te botte pas vraiment, en l'occurrence, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que je ne voulais surtout pas, parce que j'étais dans une niche très particulière qui n'attirait pas trop au départ, et on me disait plutôt va plutôt dans la perte de poids par exemple, tu vois, alors que ça m'intéresse pas, mais évidemment c'est là que les mecs font de l'oseille, tu vois, c'est le plus gros marché, c'est les femmes et la perte de poids, donc c'est juste, moi je voulais pas faire ça parce que je voulais pas vendre mon âme au diable, et donc moi je voulais vraiment me reconnaître dans ce que je faisais, donc c'est là où j'ai fait ces deux certifications là et après je me suis formé à mort tout seul avec les connaissances que j'avais, enfin les connaissances, les personnes que j'ai rencontrées sur Sydney qui étaient extrêmement compétentes, mixer certaines connaissances avec des physiothérapistes sur place qui s'occupaient de moi quand j'avais des blessures ou quoi, avec des préparateurs physiques qui m'aidaient, etc. Et en fait tu deviens une éponge, tu côtoies ces mecs là et t'essayes de manger un peu tout ce qu'ils t'offrent, tu testes sur toi, tu testes un peu à droite à gauche, tu vois ce qui fonctionne, tu vois ce qui fonctionne pas, tu fais ta salade. Et puis après, tout baigne. C'est comme ça que je me suis formé. Et je pense que quand on sort d'un BPJEPS ou STAPS ou quoi, faut pas prendre le truc comme acquis. Faut aller chercher beaucoup plus loin. Et tu peux aller chercher, plus tu vas aller chercher en dehors des frontières et plus tu vas te retrouver exposé à différentes philosophies. Et il faut prendre un peu de tout. C'est tout ça. Il faut savoir ce qu'il y a dans les autres pays, ce qui se font. Faut pas être buté sur non, ma technique, c'est la meilleure. Parce que si t'es fermé comme ça, tu vas pas grandir des masses.
C'est clairement intéressant ce que tu dis parce que généralement, et ça concerne les coachs sportifs, ça concerne d'autres personnes, mais voilà, à la fin de leur diplôme, ils disent que voilà, je maîtrise tout, j'ai pas besoin d'en apprendre plus. Alors que mine de rien, les personnes qui arrivent et qui continuent à réussir, qui continuent en fait à grandir, c'est ceux en fait qui s'arrêtent au final jamais de se former, qui, comme tu l'as dit, en fait, qui voient un peu ce qui se fait autour d'eux, ce qui se fait en dehors de leurs frontières, en dehors de ce qu'ils peuvent toucher, et ils vont apprendre de cette façon. Tu vois, et c'est ultra intéressant que tu le dises parce que ça revient, ça fait écho à ce que je t'avais dit, même en off, avant de commencer, où on s'est rencontré la première fois. Je lui ai dit, tiens, ce coach-là, il est quand même sacrément avancé par rapport à d'autres. Non, c'est intéressant que tu le dises. Tu parlais simplement aussi de ta niche. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui est ta cible, qui est ta niche aujourd'hui dans ton coaching?
Ouais. Alors, moi, je vise. Alors, au début, je ne savais pas trop me positionner. Je t'avoue que, étant donné que tout ce que j'avais étudié me montrait que je pouvais coacher des hommes et des femmes de la même manière, et je me suis confronté après à la mentalité française qui était plus réticente au niveau de l'entraînement des femmes, du genre, ah, je ne veux pas devenir comme un homme, etc., etc., sans prendre en compte l'aspect hormonal et tout ce qui va derrière. Du coup, au début, j'argumentais et j'essayais de persuader les gens que j'avais raison. Et je parlais à un mur et je me suis dit, mais pourquoi je me fais chier à coacher, à vouloir coacher un peu tout le monde alors qu'il y en a qui sont pas prêts à m'écouter. Et du coup, à la place, je me suis dit, je vais coacher des gars qui se retrouvent dans une situation similaire à laquelle j'ai été à un certain moment, où mentalement j'étais peut-être pas au top, où j'étais un peu perdu dans ma vie et que mon entraînement il valait pas grand chose, mais que j'avais déjà une base d'entraînement, mais que j'étais coincé et que je stagnais. Parce que je trouve que péter les plateaux de stagnation, c'est intéressant, mais surtout ça montre une certaine détermination à aller plus loin. parce que je ne prends pas de débutant, par exemple.
Okay.
Parce qu'un débutant, tu lui fais faire tout et n'importe quoi, ça fonctionne. Et un débutant, il ne va pas forcément être là pour le long terme. Ce n'est pas un truc... Y a, la plupart des gens, ils commencent à s'entraîner. Ils s'entraînent un an ou deux, ils arrêtent. Et, oh, je stagne, j'ai atteint mon maximum, machin. Enfin, ce que tu veux, blabla. Du coup, moi, je prends des gars qui ont un minimum un an d'entraînement. Donc, ils savent déjà s'entraîner. Comme ça, je ne perds pas de temps avec toutes les bases. Ils sont censés les connaître. Et je vais plus loin dans tout ça, en fait, pour leur permettre de se péter des plateaux de stagnation en s'entraînant sur des méthodes, entre guillemets, avancées, pour qu'eux-mêmes, le jour où ils sont autonomes, ils comprennent les problématiques et ils sachent comment s'en sortir sans pour autant que je sois là derrière eux. Donc, okay. En fait, c'est des mecs qui ont plus de 20 ans, qui, je dirais, jusqu'à à peu près 40, même s'il n'y a pas trop de limites là-dessus. C'est juste que pour le moment, j'ai personne. J'ai plus des gars. Ouais, j'en ai le plus jeune à 20 ans, le plus vieux à 35. Et en fait, j'essaie d'avoir des gars qui sont dans une dynamique relativement similaire pour les mélanger ensemble, pour qu'il y ait une certaine synergie de groupe, une bonne dynamique de groupe, que tout le monde devienne pote et qu'ils s'éclatent sur un nouvel entourage, en fait, qu'ils aient un nouveau cercle de personnes qui retrouvent un aspect social hyper cool et motivant, dû au fait, bon, déjà, d'une, parce que le Covid a fermé toutes les salles et nous a privés de tout cet aspect social. Et que, par exemple, tu vois, je parle souvent de l'entourage dans mes podcasts ou quoi, à quel point c'est important de fréquenter des gens qui sont là pour t'élever, et inversement, parce que ce qui est cool, c'est que tu peux les choisir, ces gens, mais avec le Covid, avec le fait que tu viens pas forcément d'une grosse ville avec beaucoup de gens ouverts d'esprit, tu vois, quand j'étais à Chambéry, c'était dur de trouver un entourage. Aujourd'hui, avec Internet, on a la possibilité de se le créer. Donc, c'est ce que j'essaye de créer au sein de mon académie. C'est des gars qui sont du coup like-minded, qui sont tous là les uns pour les autres, s'aider, qui vont comment on dit ça, qui vont faire de la compétition friendly avec les uns et les autres, en fait.
Ouais, qui vont s'élever
les uns et les autres, qui vont rester motivés. Et ça permet aussi de développer certains traits de caractère. Comme tu as des gars qui arrivent, qui sont hyper introvertis, qui osent pas trop faire grand chose. Et après un mois, ils deviennent potes avec tout le monde et ils deviennent beaucoup plus ouverts. Ça leur a facilité leur vie sociale, même, parce qu'ils deviennent plus ouverts en tant que personne. Et pour moi, ça fait toute la différence. Plutôt que de faire juste du one-one privé où le mec, t'as juste un one-one avec lui qui peut aussi très bien marcher, mais qui me botte beaucoup moins parce que je trouve ça moins fun et qu'au final, je peux t'apporter tellement plus en communauté que voilà, quoi. Du coup, j'essaye d'avoir des profils similaires pour qu'il y ait toujours cette dynamique qui soit maintenue et qui grossisse petit à petit, mais qui reste là.
Et justement, toi, quand tu devais simplement, quand tu t'es lancé, pourquoi est-ce que pertinemment, à part pour le fait de ne pas perdre de temps au début à remettre les bases, etc., pourquoi est-ce que c'est ce type de personne, cette cible, cette niche qui t'a le plus attiré quand toi, tu t'es décidé, tu dis, okay, je vais partir là-dessus. Et qu'est-ce qui t'a poussé, en fait? C'était quoi le déclic où tu dis, ok, je vais me focus que sur cette niche et je me mets à fond dessus, à part vendre ton âme au diable par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment te dire, ok, je pars que sur ça, je me focus sur eux?
Parce qu'ils me font penser à moi, parce que ces mecs-là deviennent mes potes.
Okay.
Et que du coup, moi, ça me fait trop plaisir de bosser avec des gars comme ça, parce que c'est pas du travail. Et c'est ça qui fait toute la différence aujourd'hui. Un débutant, en vrai, ça me saoule. On est bon dans un certain domaine, mais pour coacher, j'ai aucune patience. Donc un débutant qui va me poser des questions de merde, je suis pas la bonne personne à qui parler, parce que moi, ça va m'impatienter, ça va me gonfler, je vais pas le voir exécuter ce que je lui ai dit de faire correctement, alors que là, je prends des gars qui ont déjà de ces bases là donc je peux les pousser plus loin tout de suite. J'ai pas besoin de prendre de pincettes. Je peux aussi être moi-même complètement 100% brut, sans avoir peur de blesser qui que ce soit, parce que je sais à qui je parle. Et ça me botte beaucoup plus. Ça a été surtout ça, ouais. Et du coup, c'est des gars qui ont besoin de s'épanouir autant mentalement que physiquement, mais j'ai des gars aussi qui doivent être, entre guillemets, prêts pour l'action. Tu vois, des gars dans l'armée, des gars dans la police, chez les pompiers, des joueurs semi-pro ou en espoir de rugby ou de foot, de soccer, tu sais. Donc, c'est ça qui me botte, c'est de te pousser les limites, parce que ces mecs, ils sont déjà orientés performance. Donc, de bosser avec ces gars-là, moi, ça aussi, ça me déterre et ça me permet de rester motivé aussi.
Et c'est quoi parce que là, tu parlais justement du coaching de groupe, mais justement, pour un coach là qui te découvre, c'est quoi les types de coaching que toi, tu proposes vraiment?
Ouais. Tu vois. Alors, tu vois, là, j'ai pris un coach business pour ça, qui est Loan, et je savais pas où me positionner. Parce que au début, je voulais faire. J'ai créé une grosse plateforme donc sur Teachable, moi, qui me permet d'avoir un maximum, qui qui me permettent d'héberger un maximum de mon contenu. Mais au départ, c'était un outil que j'ai fait pour moi. C'était ma base de données, en fait. Et après, je me suis dit, bah, je vais y donner accès à tout le monde. Sauf qu'il n'y avait pas de point de contact avec moi directement. Il n'y avait pas de face-to-face. Il y avait juste, bah, prends le membership, tu regardes, c'est tous les mois, tu es débité tant, c'est pas cher, c'est un outil qui est cool. Et les gens aimaient bien, sauf que vu qu'il n'y avait pas ce point de contact, ils n'arrivaient pas à relater à moi directement malgré ça. Et il y avait cette solution-là et je m'étais dit, si je ne fais pas ça, il faut que je fasse du coaching one-on-one et je n'ai pas envie, ça, clairement, ça me casse les couilles, je n'ai pas envie de faire ça. Et je n'arrivais pas à lier les deux, à me dire, il y a peut-être un moyen de faire de l'entre-deux et qui, au final, pour moi, est beaucoup plus fun parce que le coaching en small group, c'est ce que c'était SGT ou small group training en Australie, c'est ce que je faisais. Donc, je coachais des équipes, en fait, des petits groupes de gars et ça me faisait kiffer. Et du coup, je me suis dit, comment on peut mettre ça en place tout en restant sur une approche personnalisée. Et c'est ce que j'ai fait du coup avec Lohan, c'est que là, j'ai pris des groupes, je prends un maximum d'à peu près 20 personnes. Ça fait 2 à 3 groupes de 7-8 personnes max. Et mais tout, enfin, ils sont tous ensemble là. En plus, ce matin, on a créé un Discord sur les conseils d'un de mes membres, tu vois, où du coup, c'est Discord, encore plus cool parce que là, on est tous, en fait, tout le monde se parle, tout le monde pose des questions sur tout. Ça, c'est trop cool. Parce qu'avant, j'ai un groupe Facebook avec les membres actifs et les anciens membres, les anciens élèves. Et j'ai une chaîne Messenger, une converse Messenger où il y a tous les gars qui sont coachés en ce moment. Donc, eux, ils peuvent tous sympathiser ensemble. Et après, le week-end, ils choisissent un check-in. Donc, une heure de temps, soit le samedi matin, soit le dimanche soir, en fonction de leur disponibilité. Et c'est limité à 8 places. Comme ça, on peut faire une approche beaucoup plus personnelle et ça ne dure pas 20 ans. Et de là, on en discute et ça dépend de... Tu vois, des gars, une semaine, ils vont venir samedi, une semaine, ils vont venir dimanche. Donc, en fait, tout le monde va se croiser. Tout le monde va devenir pote avec tout le monde et ça, c'est cool. Et de là, on discute de comment s'est passée leur semaine. Je les pousse dans une remise en question tout le temps, au niveau mental, tout le temps, beaucoup plus que juste « t'as fait tes répétitions là, machin, parce que ça ne m'intéresse pas ». Je veux aller sur l'aspect, au contraire, qu'est-ce que ça t'a appris ? Est-ce que tu as réussi à aller plus loin mentalement sur ce type de format, etc. Oui, non, pourquoi ? Je les pousse tout le temps là-dedans. Et comme ça, ils savent eux-mêmes se faire leur remise en question, trouver leurs faiblesses, les mettre en pratique la semaine d'après ou les mettre en pratique sur une séance alternative, optionnelle, qui est « free ». En gros, une séance en plus sur la semaine que je vais les aider à construire, mais elle est unique à tout le monde en fonction de quelles sont tes faiblesses. Et de là, tous les week-ends, on fait ce genre de check-in. Et toutes les 4 semaines, on update le cycle d'entraînement complètement. Donc, on ne change pas tout, parce que sinon, tu ne pourrais pas progresser long terme. Mais sur les patterns majoritaires, on va les laisser sous différents formats ou autres. Et après, on va changer, parce que j'ai un système d'entraînement très particulier et une programmation un peu dite intelligente. Et du coup, ça me permet de pouvoir naviguer, garder certains exos, en enlever d'autres, en mélanger d'autres, utiliser des blocs de conditionnement physique, etc. Du coup, c'est un challenge perpétuel. Ça veut dire que tu complètes jamais mon programme. C'est continuel.
Et quand tu fais la modification, c'est par rapport à ce qui revient dans tout le groupe ou par rapport à un client en particulier? Comment ça se passe?
C'est ça, on en avait parlé. Moi, je fais pas de un client en particulier dans le sens où je mets une programmation qui est complètement adaptable parce que je travaille avec des patterns de mouvement, ce qui veut dire que c'est adaptable et modulable en fonction à la fois de ton niveau et à la fois de l'équipement auquel tu as accès. Et c'est des patterns importantes comme la pattern du tirage vertical, en l'occurrence, c'est une traction, ni plus ni moins, mais tu peux l'alterner de plein de manières différentes tant que tu arrives à représenter ce tirage vertical. Et ça marche comme ça à travers toutes les patterns de mouvement qui existent. Et de là, à chaque fois qu'on remet en place un nouveau cycle, le dimanche soir, juste avant, tu vois là par exemple, on est mercredi 7, le cycle a commencé lundi. Donc dimanche soir, là c'était quoi, 5, 4, 3, lundi 3, au soir, je convie tout le monde sur un Zoom, un visio, et je partage mon écran et je montre du coup tout le nouveau cycle en fait. Donc du coup, c'est un peu de la découverte, ça les garde. Ils sont pump top, les mecs, tu vois, ils sont chauds. Et ça leur permet de voir ce à quoi on va avoir accès. Et je décortique tout. Ce qui fait que si ça pose un problème à qui que ce soit, je vois pas comment je peux le faire, j'ai accès à ça, ça et ça, comment je peux le faire à la place, je lui explique. Comme ça, en fait, il y a une certaine personnalisation, mais c'est à eux de prendre des notes, de se dire, OK, il m'a dit ça, ça, ça. Comme ça, je peux faire ça à la place, je peux faire ça, ça. J'ai pas encore le niveau, du coup, je peux faire ça à la place. Tu vois, je les pousse à cette remise en question qui va faire qu'après, ils sont en mesure de faire évoluer ou régresser un exercice en fonction de leur niveau. Et du coup, ça, c'est top. Et c'est la base le dimanche soir, toutes les 4 semaines. Et après, la semaine, j'ai des points de contact. Ils m'envoient des fois des débriefs n'importe quel jour, tu vois, aujourd'hui, demain. Et après, on fait le bilan de la semaine le week-end, comme je te disais. Okay. Et on fait ça comme ça, des cycles de 4 semaines. Et ça marche super bien parce que j'ai jamais vu des mecs aussi motivés. Et c'est vachement cool. Et aussi, tu vois, si jamais tu peux pas être là, je fais une vidéo backup qui dure à peu près 20 minutes où j'explique tout. Comme ça, j'ai pas été là, voilà, t'as la vidéo backup comme ça qui t'explique tout ce que tu peux faire à la place, etc. Le seul avantage vraiment d'être en face-to-face avec moi pendant que je fais la présentation, c'est de pouvoir me poser des questions en live. C'est plus pratique et forcément, t'as plus de valeur ajoutée à travers ça. Mais à côté de ça, t'es quand même pas laissé en arrière. On t'abandonne pas. T'as quand même ton backup. Si t'as des questions, tu me les poses, je te réponds. Et je garde toujours tout le monde dans le loop comme ça. C'est que.
Et par rapport à ce que tu disais au truc d'exercice d'intelligence, c'est quoi en détail ce que tu expliquais tout à l'heure, ce que tu as vaguement survolé, où tu me disais que quand toi tu réadaptes un programme, ça se fait de façon intelligente, c'était par rapport à quoi concrètement?
Quand je dis programmation intelligente, c'est une programmation qui va être typée prépa physique, mais dans le sens où il va y avoir de tout. Enfin, comment t'expliquer ça? Ma séance, elle se fait en bloc. Au début, ton bloc d'échauffement, c'est un bloc de mobilité qui va être là où tu vas bosser. Du coup, tu vas chauffer tes tendons, etc. Mais tu vas préparer à l'effort en fonction de ce que tu vas faire après, qui n'est pas un échauffement bidon, genre tu vas faire de la corde ou tu vas courir ou j'en sais rien, tu vas faire de l'elliptique. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va améliorer du coup, tu vas prévenir les blessures, ça va améliorer ton amplitude sur plein de mouvements, etc. Ensuite, tu as un bloc de force et c'est là où vraiment je mets l'accent. C'est ces exercices qui vont te faire progresser le plus. Il faut aller chercher la force, sinon si tu ne vas pas chercher la force, il ne faut pas t'étonner si tu ne prends pas de muscle. Il faut devenir plus fort. Le muscle, c'est un byproduct de la force. Et ce bloc de force-là, une fois qu'on l'a fait, on passe sur un bloc de renfort et d'accessoires parce que c'est aussi pour ça que je ne prends pas de débutants, parce que je leur demande d'aller taper dans des hautes intensités presque dès le début de la séance. Donc, je veux des gars qui soient déjà formés, qui sachent à peu près ce qu'ils font. Parce qu'un débutant, forcément, il ne va pas me donner la même intensité. Quand je parle d'intensité, il y a un amalgame, il faut faire gaffe. Je ne parle pas de cardio, je parle d'intensité mécanique, donc la force. Ensuite, tu as donc ce bloc de renfort d'exercices accessoires qui vont être là pour t'accompagner sur la progression de ces exercices de force. C'est intelligent dans le sens où tu commences avec les exercices qui te demandent le plus d'énergie. Parce que tu commences ta journée, enfin ta séance, tu as une barre d'énergie et plus tu t'entraînes et plus elle descend cette barre, plus elle baisse. Donc si tu mets tes exos de force à la fin de ta séance, tu n'as rien compris. C'est comme si tu faisais un exo, tu faisais de la pyramide. Genre je monte petit à petit jusqu'à ma charge plus haute. Ouais, mais sauf qu'en faisant ça, quand tu vas arriver à ta charge max, tu auras emmagasiné tellement de volume que réellement, si tu avais fait l'inverse, tu prenais certes plus de risques, mais c'est pour ça aussi que tu fais ta mobilité avant, mais au moins tu as plus d'énergie et tu performeras plus sur tes séries les plus importantes. Donc une fois que tu as fait ce bloc accessoire, tu as encore un bloc derrière qui est le bloc de conditionnement physique, qui est là justement pour propulser tes capacités cardiovasculaires, tes capacités athlétiques, ta santé cardiovasculaire. Donc c'est ça que j'appelle programmation intelligente, c'est que c'est complet et que ça travaille sur tout le corps à chaque fois, parce qu'on travaille comme des athlètes. Donc on n'isole pas, on ne fait pas une séance bras. Ça peut plaire à des gens, mais ce n'est pas ma philosophie.
Alors, c'est quoi une séance type que tu proposes à tes clients? C'est quoi une séance?
Ma séance type, il faut aller télécharger ma formation gratuite.
Lien dans la description.
Lien dans la description. J'offre une séance. Il y a trois vidéos et à la fin, il y a la séance toute détaillée qui t'explique tout. Non, mais en gros, une séance, moi type, donc il va y avoir ma routine mobilité au départ qui va durer à peu près 10-15 minutes où je vais aller titiller un peu du foam roller, ce genre de truc, préparer les articulations qui vont être mises sous tension. Ensuite, là où je vais aller attaquer la force, il va peut-être y avoir, des tractions lestées sur un format très particulier de reverse pyramide ou pas. Là où il va falloir aller chercher très lourd sur une fourchette de répétition très précise. Et si jamais tu me sors, admettons, je te dis, il faut que tu arrives à me caler trois séries entre 8 reps et 5 reps. Je le fais à l'envers. Moi, je trouve que ça a plus de sens parce que ta première série, tu es censé avoir le plus d'énergie, tu es censé faire le plus de reps si tu gardes la même charge. Et à la fin, forcément, tu vas galérer. Si tu gardes bien le même temps de repos et que tu fais le même stimulus, tu risques de faire moins de reps. C'est pour ça que souvent, mes membres, je leur mets des chasses quand ils me font un 3x8.
Ok, d'accord. Mais
comment ça se fait que tu as réussi à faire 8 reps sur la troisième série et que tu n'en as fait que 8 sur la première? Ton niveau énergétique a changé. C'est pas possible. Ça veut dire que sur la première, tu t'es foutu de ma gueule. C'est clairement ce que je vais lui dire. Et ah ouais, en fait, t'as raison, je suis peut-être pas allé chercher loin. Et en fait, je les pousse à aller chercher toujours plus loin. Et du coup, après, ils me sortent des perfs de ouf. Et la progression, elle est géniale. Donc, c'est ça qui est cool. Après ça, tu vas peut-être avoir un autre exercice de force, du coup, qui va peut-être targeter, je sais pas, je peux te dire une connerie, genre du back squat. Enfin, en ce moment, c'est pas trop le cas parce que Covid. Mais je vais travailler avec les anneaux sinon. Mais il y a plein d'exos à faire. Il y a plein de choses. Il faut que ce soit des grosses patterns, en tout cas au début, où tu vas aller chercher le plus lourd possible pour toi. Ensuite tu as un bloc d'accessoires, donc là tu vas aller chercher des exos qui vont soit isoler soit faire de l'unilatéral pour renforcer tes tes déséquilibres que tu pourrais potentiellement avoir et te rajouter de la stabilité sur tes exercices de force, parce que plus tu es stable et plus tu es en mesure de générer de la force. Donc, je vais fonctionner comme ça. Et ensuite, tu as ton bloc de conditionnement physique qui va ressembler typiquement à du crossfit, où je vais t'éclater sur certaines patterns de mouvement et sur un format très particulier sur lequel il va falloir te scorer. Il va falloir que je donne un workout tracker aussi. Il faut qu'ils se scorent eux-mêmes, qu'ils se remettent en question et se disent « Ok, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Quel est l'objectif pour la semaine prochaine ?» Et du coup, je les mets, par exemple, sur la séance 1, sur 4 semaines, ça va être la même. Donc, ça veut dire que le conditionnement physique sera le même. Mais ça veut dire aussi que tu peux faire mieux à chaque fois. Donc, le but, c'est de faire mieux. Donc, tous les week-ends, je les questionne. Et je fais « Là, cette semaine, tu as fait combien ? Si tu as fait moins bien, pourquoi ?» Et du coup, ils savent maintenant. Ils me disent pourquoi. Et ça, c'est trop cool. Ils se remettent tout le temps en question.
Parce qu'ils ont pris le temps de scorer. Et c'est comme ça que tu, au final, ce que je comprends mieux ce que tu me disais au début, c'est comme ça au final que je vais parler pour te laisser boire. Je vais parler pour te laisser boire. Mais c'est comme ça, c'est au final comme ça, c'est grâce à ça qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Je pense que c'est.
Ouais, exactement, parce que je les forme. Moi, je ne veux pas les garder à mon crochet. Ça ne m'intéresse pas. Je veux les former, je veux transformer des mecs. Et après, ce que je fais aussi pour qu'ils partent pas, entre guillemets, c'est qu'à la fois, je les fais rentrer dans une espèce. Tu vois, c'est pour moi le concept. De toute façon, tu as vu le logo. Ça s'appelle la Playbook Academy. Donc, le Playbook, c'est le livre des stratégies au foot américain. Et là, j'ai rattaqué le foot US, donc c'est encore plus pertinent. Et j'ai utilisé du coup une espèce de logo, de, je l'ai fait créer, un logo de football américain en fait. C'est comme si c'était une équipe de universitaire. Et en fait, j'ai toujours rêvé de faire un échange universitaire aux États-Unis. J'ai pas pu le faire. Et je me suis dit, autant créer la mienne, tu vois. Parce que tu sais, t'intègres une fraternité genre alpha, bêta, z, j'en sais rien. Et tu fais tes 4 années en université et après, t'es un alumni, donc un ancien élève, mais t'es toujours... Tu fais toujours partie de cette université, enfin de cette fraternité. Et moi, je veux ça. Ce qui fait que les mecs sont avec moi pendant, je sais pas, 3-4 mois. C'est leurs années universitaires, entre guillemets. Et après, ils deviennent alumni, donc des anciens élèves. Donc là, ils n'ont plus besoin du coaching, mais ils peuvent garder l'accès à toute ma plateforme à moindre coût, du coup, pour un petit abonnement tous les mois. Mais du coup, ils peuvent continuer à faire les cycles d'entraînement et à progresser, mais sans que j'ai besoin d'être derrière eux parce qu'ils sont formés. Ils sont diplômés, si tu veux.
Ok.
Donc, et... c'est comme ça, ouais.
Et ton côté là sur la plateforme, sur ce que tu as mis en place, le contenu, tu l'as déjà créé, tu le crées. Explique-nous déjà un peu comment ça se passe, ce qui m'avait fasciné moi la première fois qu'on a échangé ensemble.
Le contenu,
exactement.
Je l'ai créé sur le long terme, je dirais. C'est pas quelque chose que tu crées, que tu lances demain. La base de données, elle grandit en fait chaque jour, donc elle devient jamais obsolète. C'est ça qui est cool, c'est que parfois je vais faire des corrections, je peux changer des trucs, je peux rajouter des trucs, et je le fais aussi en fonction de la demande. Il suffit que j'ai la demande, à ce moment j'ai mal à la coiffe des rotateurs, je sais pas quoi faire. Ok, bouge pas, je vais me filmer à la salle sur une routine mobilité coiffe des rotateurs, je vais la monter, je vais l'uploader dans la section mobility work.
Et du coup, pourras la réutiliser à chaque fois, quoi.
Je crée une database comme ça. Il y a genre 400 vidéos à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai créé beaucoup de choses. Il y a aussi du texte. Il y a des trucs que je rajoute de temps en temps. Et là, j'ai filmé une nouvelle routine hier pour protéger le talon d'Achille parce que moi, c'est là où ça vient surtout avec le foot américain. Les impacts, etc., les sprints, ça fait vite mal aux chevilles. Et du coup, une routine pour renforcer directement l'articulation de la cheville. Et je vais la monter demain, je l'uploaderai, et ça fait du contenu en plus. Mais c'est pas du contenu qui est arrivé overnight, tu vois. C'est arrivé, ça fait déjà 2 ans que je travaille dessus, un peu plus que ça même. Donc, ça vient pas tout seul, mais c'est une base de données qui grossit et qui est du coup disponible après sur téléphone ou sur ordinateur. Et du coup, tu la consultes à tout moment, tu en fais ce que tu veux, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment une base de données. Tu as aussi, par exemple, tu auras toutes les vidéos d'exercices forcément que j'ai fait, mais si tu as un exercice qui te pose problème, tu peux descendre en bas, tu as un truc que j'ai appelé la Bible et qui te donne accès à toute ma bibliothèque d'exercices classée par à la fois pièces d'équipement et à la fois par pattern de mouvement. Ce qui fait que là, je sais pas, tu as un truc, c'est du push, clairement, tu vas aller dans la section push de anneaux de gymnastique parce que tu as des anneaux de gymnastique et tu essayes de me trouver la correspondance par rapport à ce qui était demandé sur la programmation.
Ok. Et après, c'est à lui seul de faire le switch. Ouais, ok, d'accord. Et le contenu, justement, comme tu l'as dit, en fait, c'est du contenu qui s'est fait petit à petit, mais aujourd'hui, quand tu as commencé ça comment est-ce que tu t'y es pris pour arriver à mettre le contenu? Comment ça s'est passé au tout début sur le décollage, la mise en place du contenu que tu as commencé à mettre en place?
C'était relou de ouf.
Tu m'étonnes.
J'ai rien lancé du tout, en fait. J'ai monté, euh, J'ai lancé le projet au début qui était donc sous une offre extrêmement différente. Comme je te l'avais dit, c'est arrivé au mois de janvier 2019, le 6 janvier 2019 si je suis bon. Et du coup, ça veut dire que 6 mois auparavant, donc pendant presque toute la fin de 2018, je bossais dans l'ombre pour faire cette plateforme en fait. Donc elle n'était pas disponible au public, je vendais rien. J'accumulais mon contenu pour le mettre dessus. C'était petit à petit. Au début, j'avais des programmes que je vendais en one shot. J'en avais trois. Trois, parce que j'en ai un quatrième aujourd'hui. Mais c'est des trucs que je ne mets pas spécialement en avant parce que ce n'est pas comme ça que je veux entraîner les gens. Mais par exemple, je tombe sur des profils parfois que je trouve qui ne correspondent pas spécialement à l'académie, mais que je peux quand même aider. Tu vois, c'est arrivé pas plus tard qu'il y a deux jours. Il y a un gars qui a un peu plus de 50 ans qui m'a appelé, que je chantais déter et qui rouillait dans sa routine, qui voulait faire un nouveau truc et qui allait s'acheter une paire d'anneaux. Je lui dis, bah, mon gars, moi, je pense que t'es pas un bon fit pour l'académie aujourd'hui. Peut-être que plus tard, mais là, tu manques un peu d'expérience. Ce que je te propose, bah, c'est de jumper sur ma programmation anneau que j'avais créée. Et c'est un truc à un one shot qui coûte 60 balles. Et certes, c'est pas du récurrent, mais au moins, j'ai comblé ses besoins. Et il peut s'entraîner correctement avec ça, quoi.
Ok. Donc tu proposes aussi ce type de coaching, c'est-à-dire que tu proposes aussi un, enfin,
là il y a pas coaching, de coaching,
non, mais un programme,
c'est juste un programme
exactement,
tout
tu
seul.
Proposes
ouais,
exactement.
C'est ça.
Ok. D'accord.
Ça correspond à quand tu fais de la masse et que t'es méga connu sur les réseaux ou quoi. Ce qui est pas du tout le cas, mais c'était si je peux rediriger des gens là-dessus, je le fais parce que ça peut quand même les aider. Parce qu'étant donné que les places sont très limitées dans l'académie, forcément, s'il y a plus de monde qui m'interpelle et qui sont un peu moins avancés dans leur entraînement, mais qui ont besoin d'une base, je vais essayer de les aider au mieux.
Ok, donc à chaque fois qu'ils arrivent et que tu sens qu'il y a pas, c'est pas le bon match entre tout de suite en fait, parce que je dis que ok, ce mec-là, ouais, il est trop débutant, ou bien est-ce que s'il correspond pas à ta mentalité, est-ce que tu le laisses rentrer même s'il est avancé ou pas du tout, tu lui dis non, c'est mort. Ça, c'est intéressant.
Alors, ça, des fois, ça arrive que... Alors, déjà, pour rentrer dans l'académie, il faut forcément passer par un appel avec moi.
Ok.
Parce que déjà, c'est pas un truc cheap. Donc, si les mecs s'attendent à payer 50 balles par mois en coaching privé avec moi, c'est pas le cas, forcément.
On y reviendra juste après au prix, comment tu l'as établi, etc., etc.
Ouais, le prix, il a beaucoup évolué parce qu'au début, je savais pas comment me placer et je savais pas comment... Je savais pas... ma valeur ajoutée. Tu sais, c'est un peu bizarre quand t'as toi, t'as ton expertise, mais pour toi, elle est tellement simple que t'as l'impression que ça vaut zéro. Et ça, c'est vraiment un problème. Et c'est là où je m'étais fait taper sur les doigts par Loan, parce qu'au tout début que j'ai lancé ça s'appelait juste le playbook. Il y avait beaucoup moins de contenu qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas du tout d'accompagnement, rien du tout. C'était juste, tu prenais un abonnement. Mec, ça coûtait 7 euros par mois.
Ouais.
Et du coup, quand il a appris ça, il m'a dit, mais t'es le roi des cons. Évidemment, tu sais, j'ai eu beaucoup de gens dessus. D'un coup, j'ai eu 150 personnes dessus. C'est pas cher. Mais même 150 personnes à 7 euros, tu vis pas avec ça.
Ouais, tu vis pas.
Et derrière, les gens, vu qu'ils n'ont pas de point de contact, et en plus de ça, vu qu'ils ont payé, même si c'est que 7 euros, ils pensent qu'ils peuvent te bombarder de questions. Et du coup, c'était pas vivable. Donc les mecs restent 2-3 mois, ils se barrent. Donc après, en fait, je suis tombé dans un gouffre et je fais, mais en fait, mon truc marche pas du tout, quoi. Alors que j'ai un produit qui est monstrueux.
Ouais.
Mais c'était pas possible. Et après, c'est là où j'ai fait cette grosse remise en question avec Loan et proposé un accompagnement qui les met en confidence sur la plateforme en elle-même, qui les permet d'être à l'aise avec ça, et comme ça après ils peuvent aller sur un abonnement qui est moins coûteux, mais qui du coup leur permet de, enfin ils sont déjà formés,
ouais.
Donc c'est beaucoup plus intéressant humainement parlant pour moi aussi aujourd'hui.
Mais pour revenir à justement, je vais creuser en détail juste après sur le prix, comment est-ce que t'en arrives là, vraiment sur plein de questions que j'ai encore sur le prix. Mais pour revenir au site demain, t'as un client qui débarque et qui dit
oui exact
ouais. Tu vois comment on gère un podcast, je maîtrise de plus en plus.
En appel, je vais leur dire très clairement que je pense que c'est pas un bon fit et que je vais les rediriger vers quelque chose d'autre. Mais après, quand c'est pas un bon fit, c'est que ça se ressent tout de suite et que je vais dire, je pense que c'est pas adapté pour toi. Encore, t'as pas le niveau aujourd'hui. Et après, il y a une question de budget aussi, parce que mine de rien, c'est pas cheap et il y a des mecs qui peuvent pas se le permettre, donc ça se comprend aussi. Les appels sont relativement bien filtrés dans le genre où j'en ai pas 200 000, parce qu'au début, si, c'était le cas, j'avais tout n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Et là, j'ai mis en place un formulaire qui, du coup, trie parce que tu as des gens qui ont la flemme de remplir le formulaire. Donc, par définition, un mec qui a la flemme de remplir un formulaire, il aura la flemme de suivre ce que je lui dis et encore moins d'investir autant par mois.
Ouais.
Donc, au moins, ça me fait gagner du temps. Parce qu'au tout début, il fallait que je prenne de l'expérience et que j'apprenne à closer des mecs par téléphone. C'était extrêmement compliqué au début. Je savais pas du tout m'y prendre. J'arrivais pas à annoncer le prix. J'avais l'impression que c'était trop cher, que c'était, enfin, j'étais pas à l'aise avec ça. Aujourd'hui, j'ai même plus besoin d'annoncer le prix, en fait. C'est que je vends du rêve. Enfin, je vends du rêve. Je vends vraiment ce que les gens, je vends pas. Trop expliqué, ça endort les gens. Je vais plutôt leur vendre le fait que ils vont passer de ça à ça et qu'ils vont émotionnellement parlant, les émotions parlent beaucoup plus qu'autre chose. Et ça permet de vendre. Et je parle même pas du prix et les mecs vont me dire ok, moi c'est bon. Avant que je dise quoi que ce soit du prix, je t'ai pas parlé de prix encore. Ah ouais, mais c'est bon. Après, il y en a qui vont dire ah ouais, merde, j'ai pas le budget, désolé, mais sinon je serais vraiment venu. Mais à chaque fois, tous mes appels, c'est ça. C'est que les seuls mecs qui rejoignent pas l'académie et que je pense que ça aurait pu être des bons fits, c'est une question de budget. Sinon, j'ai jamais personne qui me dit ah ouais, non, en fait, ça m'intéresse pas.
Mais ce que je voulais justement remonter par rapport à ça, c'est que t'es capable aujourd'hui de refuser des clients. Et tu refuses des clients. Et tu vois, ça, c'est une problématique que peuvent avoir des coachs sportifs. Justement, j'en parlais dans la vidéo que j'avais faite sur la niche sportive. Le but, en fait, de choisir une niche, c'est de s'y tenir. Et si jamais, en fait, il n'y a pas de bon fit, comme tu dis, en fait, il n'y a pas de, comment on pourrait traduire fit? On va dire fit, hein, tout ouais, simplement. Ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas de, ça matche pas. Et du coup, tu refuses un client, en fait, pour t'éviter tout ce qu'il y a derrière, en fait. Et t'en as beaucoup, en fait, qui choisissent une niche, mais qui vont aller quand même, en fait, prendre un client qui ne leur correspond pas et le regretter peut-être après, plus tard, mais qui font pas l'effort de refuser un client.
Ça,
tout simplement, et toi, tu le fais
directement. Ça met en péril l'ambiance du groupe aussi derrière. C'est ça qui est dangereux. Et je fais gaffe à ça. Ou alors, ça m'est déjà arrivé de mitonner sur le prix, en fait. Quand le mec, je sens que ça passe mal et qui me demande le prix, je vais lui dire un prix beaucoup plus haut que ce qu'il est réellement, et comme ça il va dire ah ouais non je peux pas. Okay. Je te tiens au jus, ouais, et puis ils reviennent jamais. Et tu lui dis ok, de toute façon, je voulais pas te blesser, mais je voulais pas te faire rentrer dans le truc.
Ok. Ouais, c'est une bonne technique, ça.
Ouais,
c'est une bonne technique. Mais du coup là, parce que justement tu me parlais des clients voilà qui étaient pompiers, etc. Comment est-ce que toi, tu trouves ou te trouves, tu nous diras, je te laisse t'exprimer là-dessus, mais comment est-ce que tu trouves ou te trouves tes clients aujourd'hui? C'est quoi le process en fait pour acquérir de nouveaux clients? Le process que tu as mis en place?
Je t'avoue que je suis pas très très bon là-dessus. J'ai la chance d'avoir une petite communauté sur Instagram que j'ai créée, enfin il y a déjà un moment, parce que maintenant je ne monte plus du tout sur Insta.
Okay.
Ce qui me rapporte aujourd'hui du prospect, je pense qu'il y a mes vidéos YouTube qui rankent, des vieilles vidéos fait il y a à peu près 4-5 ans, qui rankent sur des sujets pertinents comme le full body vest, le split, ou comment ne plus avoir mal de dos, je sais pas quoi, avec du renfo. Je dois avoir 3-4 vidéos qui rankent. Comme ça, même si je fais plus du tout YouTube aujourd'hui, j'ai 7000 abonnés, je crois, mais c'est pas un format qui me satisfait, qui m'épanouit. Donc, c'est pour ça que j'ai switché sur le podcast. Et je pense que je prends aussi du prospect sur le podcast. L'avantage, c'est que là, aujourd'hui, j'ai dit que je prenais pas de filles en coaching pour la simple et bonne raison que c'était, comme je te disais, ça me gonflait de devoir argumenter le pourquoi du comment. Sauf que, mine de rien, il y a des filles qui savent ce qu'elles veulent et qui savent qu'elles peuvent s'entraîner comme ça et qui me demandent de les coacher. Donc là, aujourd'hui, je suis un peu le cul entre deux chaises parce que j'ai des demandes de femmes qui veulent. Alors, je me dis peut-être que on fera une
académie femmes
de 5-6 femmes ensemble. Et que je crée le même type de groupe, mais pour les femmes.
Ouais,
mais je suis pas sûr encore. Je suis vraiment pas sûr. C'est juste que j'ai eu quelques demandes. Ah, tu coaches pas les filles, machin. Et ouais. On verra. Pour le moment, on verra. Mais je pense que ça, il y en a beaucoup qui viennent aussi sur cet aspect mental que je transmets au sein du podcast.
D'accord. Ok. Du coup, c'est.
Je crois que je suis pas juste orienté entraînement et que voilà, que je peux vraiment les transformer en tant que personne. Et du coup, ça les attire.
Ok. Et du coup, tu penses pas que le Insta il joue quand même un rôle? Tu le pousses pas? Comment est-ce que tu le gères aujourd'hui, toi, ton Insta? Est-ce que lui, il joue aucun rôle? Parce que t'as quand même pas mal de.
Insta, je fais beaucoup de stories. Parce que c'est un format qui est impulsif, direct, cool, spontané. Par contre, les posts, je suis pas bon. Je poste pas assez. Et avant, il y a quoi? Il y a 3-4 ans, je postais tous les jours. Mais je trouve qu'en regardant, c'était à faible valeur ajoutée. Le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se postent des photos de torse nu tous les jours, machin, mais ça apporte quoi? Et vu que c'est des vanity shots, ça ne m'intéresse pas et je préfère apporter de la valeur. Sauf que bah, pour faire de la valeur, il faut pencher un peu plus sur la, se pencher un peu plus sur la question et du coup, bah, réfléchir un peu plus sur le type de poste que tu veux créer. Et moi, j'aime beaucoup l'aspect vidéo. Tu vois, j'ai une cam qui est vraiment ouf, qui est là et qui est compacte, mais qui est monstrueuse. C'est un full frame Sony A7C, pour ceux qui
le A7. Mmh. C'est un beau produit, ça.
C'est un sacré bon produit et qui me permet de me filmer quand je veux. Mais à l'époque où je faisais plus de contenu, j'étais en France et j'étais tout le temps avec mon frère. Et mon frère, du coup, bah, pouvait se mettre derrière la caméra et me filmer ou me prendre en photo et c'était bien. Quand tu es tout seul, c'est pas la même. Il faut mettre un trépied, c'est un peu plus chiant, ça casse un peu la dynamique de ta séance. J'essaye quand même de fournir du contenu qu'on voit nulle part parce que bah, maintenant, tout le monde fait les carousels avec ta séance, abdos, machin. Mm. Tout le monde fait ça et j'ai pas envie de rentrer dans ce moule. Et j'essaye aussi d'apporter un aspect bah justement à la fois ambitieux, entrepreneurial et mindset qui va derrière. C'est pour ça que le podcast s'appelle Biceps et Mindset, parce qu'il n'y a pas que ça. Et les gars, moi, qui m'appellent parce qu'ils veulent prendre des bras et perdre du bide, ça ne m'intéresse pas. Donc, je m'en sers comme ça.
On a beaucoup de sur le demande ou pas ?
Non, non, ouais. J'y pense parce que c'est un de mes amis proches qui est policier en France et qui me demande ça tout le temps et qui me casse les noix et que j'arrête pas de lui dire que je lui dis quoi faire en plus, mais il fait jamais ce que je lui dis. Après, il se plaint et après, je l'appelle et au téléphone, il est en train de fumer, tu vois. Je fais, c'est bon. Mais en gros, mon Insta, il me sert à ça. Mais clairement, je pourrais faire mieux. Je pourrais faire mieux. Après, il y a aussi tout ce qui est collaboration qui aide beaucoup, mine de rien. Ce que j'ai la chance d'avoir réseauté tôt avec des mecs qui sont maintenant très connus. Et même si moi, je ne suis pas spécialement connu, d'après eux, je devrais l'être, mais, parce que je suis comme eux, mais je n'ai pas les followers qu'il y a derrière. Mais au moins, c'est sur un plan intellectuel. Par exemple, des gars comme Antoine Fonbonne qui sont, comme il le dit lui-même, des surdoués. Donc, ce n'est pas évident de côtoyer des gars comme ça. Et moi, j'adore parce que ça me stimule beaucoup. Et je deviens pote avec tous ces gars-là de manière complètement authentique. J'ai jamais réseauté avec ces gars-là de manière intéressée. Ça a plus été sur un aspect humain parce que parfois, un mec qui a beaucoup d'abonnés, il le mérite dans le sens où c'est une personne extraordinaire. Tu vois, je pense à des gens comme Chloé Bloom, maintenant, qui s'appelle, qui est une bonne pote à moi que je vais faire intervenir dans le podcast bientôt. Antoine, même Eric Flagg, tu vois, c'est des gars qui sont des bonnes personnes et qui apportent de la valeur. Je parle pas de ceux qui se foutent à poil ou quoi, qui ont des monstres d'abonnés parce qu'ils soit ils sont chargés aux hormones, soit ils sont à poil et ça attire du monde et voilà. On s'en fout de ces profils-là, mais du coup, voilà, je me suis intéressé à ces gens-là. Eux, ils ont des abonnés, mais pour une bonne raison. Je trouve qu'ils les méritent. Et ça m'a permis, tu vois, de les faire intervenir dans le podcast. Ça me fait venir du monde parce qu'il y en a plein qui sont là. Putain, je t'ai découvert grâce à Eric Flagg, je t'ai découvert grâce à Antoine, tu vois, ce genre de choses. Et moi, c'est cool en soi parce que moi, le but, c'est d'échanger avec mon pote. Et si ça peut me ramener du prospect en plus, c'est encore mieux. Et si transformer leur vie, c'est mieux parce que je ne suis pas à la course aux likes, à la course aux abonnés. Je veux avoir un impact sur les gens. C'est tout ce que je demande. Ce n'est pas regarder « Oh putain, regarde, j'ai 100 000 abonnés. » J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Mais en gros, ouais, je pense que je le gère comme ça. C'est plus… en vrai, je te jure que ça ne monte tellement plus les abonnés. Je dois prendre… Allez, maintenant, je dois prendre peut-être 10-15 abonnés par jour. Ce n'est pas grand-chose.
T'as quand même un bon nombre, t'as 18K, il me semble, non ? T'as combien sur ton Insta là, si on va voir.
18 000, mais je suis monté à 18 000 très vite.
Ouais.
Et après, ça a complètement stagné du jour au lendemain, je sais pas pourquoi. Okay. Avant, il y avait une croissance organique qui était cool et je suis monté vite au début. Je suis parti d'un compte, j'ai vite eu 2 000 abonnés, après, je suis monté à 10 000 très vite et je fais putain, la vache, cool. Et j'avais un gros engagement à cette époque et après ça s'est cassé la gueule petit à petit. Après, je remets pas en cause l'algorithme ou quoi, je m'en fous, hein. C'est plus que je pense que j'ai pas été non plus très régulier avec mon contenu. Faut s'en prendre à soi, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités et pas se plaindre contre le monde entier quand on peut rien y faire. Mais il me sert à ça, il me donne une certaine crédibilité, le fait de sortir un contenu qui est relativement, il y en a pas beaucoup, mais j'essaie d'être qualitatif dans le sens où mes vidéos, elles ont de la gueule. Mon contenu, il a quand même de la gueule. Le podcast est hyper pro. J'essaye de me poser sur une espèce d'image de marque qui est quand même solide. Mon entourage, c'est des gens, c'est Antoine Fonbonne par exemple. Donc c'est si Antoine Fonbonne me fait confiance aujourd'hui, c'est que je suis pas le dernier des péquenauds non plus.
Bien sûr.
C'est aussi ça, ce qui est un peu mon image de marque entre guillemets. Et puis maintenant, j'essaye d'instaurer la Playbook Academy comme étant un concept de coaching. Tu vois ce que je fais là pour faire grandir l'équipe, étant donné que je peux pas faire plus de 20 personnes. J'ai recruté un coach qui est dans le groupe et qui prend ses propres gars qui collent aussi à la dynamique. Et les mix au groupe. Et du coup, lui, il peut aider un peu tout le monde. Et du coup, ça fait qu'il y a deux fois plus de disponibilité. Et c'est trop bien. Parce que ça fait vraiment spread le message encore plus. Et c'est cool. Ça devient une vraie université, quoi.
Ouais, du coup, là, il y a un autre coach qui vient t'épauler, suivre tes clients. Est-ce qu'il touche à tes clients ou c'est simplement il gère ses propres clients et puis basta et
ah,
c'est
il
juste les clients
tout le monde.
Ok, d'accord.
Il touche à tout le monde, il aide tout le monde en fait. C'est que si lui, il est plus rapide, tu vois, par exemple, là, les blocs de conditionnement physique sur le cycle d'entraînement, c'est lui qui les a fait, parce que je lui fais confiance et qu'il est bon là-dessus. C'est un coach qui est certifié CrossFit, donc il sait ce qu'il fait. Donc moi, c'est top, ça m'apporte de la valeur ajoutée et il aide aussi les autres, il propose des challenges et tout. Moi, je le trouve génial. Et c'est ce que tout le monde devrait faire. C'est que tu vois, il faut pas être là, ouais non, tu parles pas à mes clients, machin. Mais non, on est tous dans le même groupe, on est tous ensemble. C'est comme ça. Et puis du coup, bah, ça se passe hyper bien et je veux à l'avenir en avoir plusieurs des gars comme ça. Ouais. Parce qu'il est rentré en plus en tant que membre au début.
Donc, okay, c'était un de tes clients de base.
Voilà, il est resté 3 mois et à la fin, il me dit, je suis vraiment trop bien là-dedans, je partirai pas. Et je lui ai dit, mais gros, t'as vu les capacités que tu as, t'as pas besoin que je te coach. Et en fait, il restait pour l'aspect mental et parce que je l'avais vraiment aidé sur son développement. Et du coup, il est resté parce que bah, l'entourage le faisait que je lui dis, écoute, je te propose autre chose, tu vas plus payer maintenant. Tu vas être dans le groupe avec moi et tu vois, tu pourras faire ça, ça, ça. Et il me dit, ah ouais, putain, génial. Et il est trop content. Donc, encore mieux. Enfin, moi, pour moi, c'est trop gratifiant de voir que je peux transformer des vies. Il n'y a rien de tel. L'aspect humain vaut beaucoup plus que l'argent.
Et quand il y a un nouveau client qui arrive, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur le process d'onboarding, d'accueil d'un nouveau client qui vient, qui tombe sur Quentin Randis, qui se dit « Allez, je vais partir, je vais m'inscrire à la PDWC Academy ».
Il prend l'appel déjà, on discute ensemble et après je le redirige, donc je lui explique rapidement les grandes lignes de comment ça va se passer. Généralement, je prends des gars qu'avant la fin du cycle, comme ça ils arrivent le dimanche soir, ils peuvent aller direct sur le check-in avec tout le monde et au moins ils sont direct dans le bain, quoi. Parce que si je les prends, je sais pas, à 2 semaines du... Enfin, je sais pas, par exemple, là, c'est la semaine 1. Si je les prends fin de semaine prochaine, ça n'a pas trop de sens. Ils vont arriver un peu au milieu du truc. Donc, généralement, j'ai un process de sélection qui va durer une dizaine de jours dans ces eaux-là. Et donc, le gars, je lui explique les grandes lignes, etc. Je lui explique qu'il va se retrouver avec un groupe, avec des gars qui sont comme lui, etc. Je le mets en confiance au maximum. Et après, il va sur le lien où il rentre sur la plateforme. Et la plateforme, dès le début, t'as un truc qui s'appelle Welcome to the Club. Et t'as une vidéo de moi qui parle et qui va te dire en gros les étapes à faire. Donc tu vas aller dans le groupe privé. Une fois que t'es dans le groupe privé, tu te présentes sur un texte. Après, bah, je te fais rentrer dans la ligne Messenger, etc. Et après, une fois que le mec déjà s'est présenté sur le groupe, il va plein de monde qui vont dire bienvenue, machin, etc. Donc déjà, le gars se sent bien. Et après, il y a le fameux introduction de cycle le dimanche. Et là, du coup, bah, avant qu'on commence, on va rigoler avec tout le monde un peu 2-3 minutes. Et après, je dis, bon, bah, les gars qui viennent de nous rejoindre, là, en l'occurrence, là, sur ce cycle-là, il y en avait 2. Enfin, il y en avait 3, mais le troisième n'a pas pu venir. Et du coup, ils se présentent pendant 2-3 minutes. Bah, salut, moi, c'est un tel. Je fais ça, ça, ça. J'ai rejoint Quentin parce que ça, enchanté. Et du coup, ils sont tout de suite mis dans le bain avec les autres. Et les autres, tu dis, ah, trop cool, machin. Et ça, tout le monde devient pote. Et c'est le top.
Et sur la suite après, bah après c'est comme tu l'as dit en fait, t'as le contenu, tu fais les cycles de programmation, chacun vient, lui qui il rentre direct en fait dans le mood en fait, comme tu l'as dit, il attaque directement par rapport c'est à ce ça. Que t'as proposé, d'où en fait tu disais ne pas vouloir prendre de débutants parce que tu tapes dans le vif directement.
Okay. Il y a beaucoup de théories qui t'apprend plein de trucs, mais la base t'es censé la connaître déjà, et c'est pour ça que je perds pas de temps là-dessus et que du coup les mecs ils sautent dans le bain tout de suite. Première séance, boum, ça prend une grande claque. Déjà, généralement, c'est la grande claque. Quand ils arrivent, ils prennent première séance, ils hallucinent, ils m'envoient tous des messages vocaux. Putain, gros, tout, j'ai jamais vu ça. Cool. Tant mieux, welcome to the club. Tu vois, c'est évidemment que je vais changer ta vie. Ça n'a rien à voir avec ce que tu aurais pu faire avant. Et puis, tout le monde échange, en fait, dans ce. Bah, c'était dans cette conversation Messenger, mais là, on a ouvert le Discord, donc c'est encore mieux maintenant.
Ouais.
Parce que du coup, tu peux échanger sur des trucs différents. Tu vois, maintenant, les gars se conseillent des livres à lire de dev perso et tout. C'est trop bien.
Ouais, c'est grave stylé. Non, c'est ouf en fait. C'est pour ça que quand on s'est eu la première fois au téléphone, je me dis putain, c'est quand même dingue en fait ce qui a pu être créé. C'est parce que généralement, t'as des coachs qui veulent pas mélanger leurs clients, qui veulent pas que tel et tel client parle à tel autre client.
Ouais.
Et quand t'es venu sur l'approche, que tu m'as raconté un peu ce que t'avais mis en place, je trouve ça ultra malin, ultra intelligent, parce qu'aujourd'hui, bah, t'es quand même ultra maître de ton temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, tu maîtrises ton temps absolument par rapport au contenu que t'as pu bosser avant, ce qui t'a permis aussi de créer des boîtes à côté, comme Sync, hein, que t'as à côté. Mais tout ce truc-là, tu vois, je me suis dit, c'est quand même bien foutu. Parce que toi, en tant que coach sportif, tu accordes combien de temps dans ta semaine actuellement, parce que il y a beaucoup de coachs en fait qui hésitent, voilà, à se lancer dans le en ligne déjà pour commencer, tout d'abord, avant toute chose, qui veulent pas se lancer dans le en ligne. Mais même s'ils se lancent, qu'ils font, même si la semaine dernière, j'ai reçu, même ce dimanche, en fait, on a mis en ligne un podcast avec Vincent Pedraza, qui lui fait de la programmation, comme tu l'as dit, one-to-one avec certains clients, mais derrière, lui, il est plus visio, par exemple, ce qui fait que il peut aller aux îles Caïmans et continuer, en fait, à coacher ses clients de l'heure en visio. Il kiffe ce qu'il fait, bref, il surkiffe ça. Toi, c'est plus ce côté-là, coaching de groupe. Et tu vois.
Visio aussi, mais en groupe, quoi.
Ouais, exactement, en groupe. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, le coach sportif qui débute, il n'est pas forcément obligé d'aller se mettre uniquement que sur de la programmation one-one. Voilà, il y a la visio, il y a le groupe training. À quel moment, toi, tu t'es dit que voilà, t'étais suffisamment, en fait, ancré dans ce truc-là de coaching en ligne? À quel moment tu t'es dit, putain, là, je suis quand même. C'est quand même sympa le.
Pas longtemps. Okay. Ça fait vraiment pas longtemps, c'est depuis que j'ai fini de bosser avec Loan, okay, que j'ai mis tout ça en œuvre et que là, je me suis dit, ok, là, on a des fondations. Mm. Et de faire monter petit à petit le prix aussi pour se rendre compte de ce qu'on apportait. Là, en ce moment, je faisais encore quelques promos parce que c'est un peu une phase test encore, mine de rien. Ça fait pas hyper longtemps que je fais ce concept et qui marche très bien. C'est marrant que tu parlais de coach parce que moi, j'ai des coachs qui viennent des fois et qui ont besoin de voir comment je fonctionne. En fait, ils viennent, ils rentrent en tant que membres et ils n'ont pas spécialement besoin d'être coachés, même si je change généralement leur philosophie de l'entraînement. Et après, ils repartent, mais du coup, ils copient un peu le système, tu vois, avec leurs clients. Donc, c'est cool, hein. Moi, je les pousse à le faire, hein. De toute façon, je m'en fous. Je suis pas là, ouais, tu m'as copié. Non, écoute, si je t'ai inspiré à faire comme ça, c'est cool.
Tu vois, c'est un schéma qui est quand même très sympa, tu vois. Je pense que toi, aujourd'hui, tu proposes pas de coaching one-to-one, mais je pense vraiment qu'en tant que coach sportif, c'est ce que je dis, tu peux commencer par un certain domaine, un certain type de coaching que tu proposes, mais derrière, dans tous les cas, tu vas pouvoir, et tu me dis si je me trompe par rapport à ta mentalité, par rapport à ce que tu penses de tout ça, mais je me dis qu'en tant que coach sportif, tu peux faire à la fois du visio, c'est des coachings, c'est du visio qui est demandé par tes clients, tu peux faire de la programmation, tu peux vendre des programmes comme tu l'as dit, et à côté, en fait, tu peux avoir ce truc de groupe training là et proposer, en fait, du coaching qui est assez, tout en restant, en fait, dans une niche qui est similaire, mais en variant par rapport à ce qui est proposé par tes clients, parce que toi, de ton côté, tu le proposes pas parce que t'as pas envie de le proposer, mais en soi, c'est quelque chose que tu pourrais faire.
Ce que tu vois, je pourrais faire. C'est juste que j'ai absolument pas envie. Je me focalise sur ce que j'ai envie de faire, très clairement. Je suis devenu entrepreneur parce que j'étais un mauvais employé. Dans le sens de mauvais employé parce que trop d'ambition. J'essaie de trouver les bons mots parce que j'ai pas envie qu'on prenne mal ce que je suis en train de dire. Mais dans le sens où je voulais plus quand j'étais employé, je voulais avoir les rênes. Dans le sens où parfois j'avais des idées d'innovation, de trucs, et qu'on m'écoutait pas parce que c'était pas mon business. Ouais. Et que ça me rendait fou, que je me frittais avec mes boss à chaque fois et ça se passait mal. Et je me suis dit, il faut que j'arrête de bosser pour des gens, c'est tout. C'est il y avait en Australie où ça se passait bien parce qu'ils me laissaient vraiment carte blanche. Donc c'est démerde-toi, fais ce que tu veux, ok, cool, ça marche. Mais après, en Angleterre, j'ai été beaucoup plus là. J'ai dû suivre des normes extrêmement carrées et là, ça s'est mal passé. Après, j'en ai quand même beaucoup appris parce que du coup, c'est le mec qui est devenu mon mentor. Mais je me suis aussi rendu compte que ouais, c'était pas ce que je voulais faire. Et grâce à ça, ça me permet de focaliser sur exclusivement ce que j'ai envie de faire là à l'heure d'aujourd'hui, même si je pourrais peut-être doubler mon CA en changeant en rajoutant d'autres services que j'ai pas envie de faire, mais j'ai pas envie. Et aujourd'hui, mon temps est très bien managé pour en revenir là-dessus. Je suis en contact avec la plupart des gars au jour le jour, mais sur des vocaux Insta ou quoi, on discute rapide, mais c'est rapide, ça me prend pas beaucoup de temps.
Comme si tu parlais à un pote, quoi, tout simplement.
C'est comme si je parlais à des potes. Tous, c'est comme ça, et ça va peut-être me prendre une heure par jour à tout péter. Et y a juste le week-end après où j'ai une heure le samedi matin, une heure le dimanche soir. Donc c'est pas beaucoup à la semaine, ça prendra, ouais. Et puis après, il y a le contenu que je crée en plus, mais ça, je le ferai dans tous les cas, tu vois. C'est même pas, je me force pas à créer du contenu, je le fais parce que ça me fait kiffer et que ça fait partie de ma routine. Et après, quand je fais le nouveau cycle, je vais me poser dessus le dimanche après-midi. Généralement, ça va me prendre 4 heures et comme ça, il est prêt pour le soir même. Mais en gros, c'est pas chronophage.
Et c'est quoi l'impact parce que justement j'ai switché, j'ai fait un switch totalement, j'allais passer directement à Sync, mais parce que ça m'est revenu directement parce que je me suis dit que vu que t'as énormément de t'as plus de temps, voilà, on va dire que t'as plus de temps, ça te permet de te faire des choses qui sont liées au sport et qui permettent en plus de ça d'augmenter encore la valeur perçue de la Playbook Academy, d'augmenter la valeur perçue de la valeur que tu vas donner à tes clients en rajoutant un truc. Mais non, mais je trouve ça bien pensé parce que
tu as des clients qui viennent dans ta Playbook Academy, que tu suis mentalement et physiquement, et derrière, tu es même capable de les accompagner sur un petit côté parle-nous-en, en fait. À quel moment tu t'es décidé de lancer ça et de, c'était par rapport au coaching, à la demande que tu as eue de tes clients, non. Ou c'était un truc
Sync, c'était. Bon, je me suis associé à un pote qui. C'était son idée au départ.
Okay.
Et le conflit, c'était qu'il n'y avait que de la whey à l'époque. C'était édulcoré artificiellement, enfin tout ce que tu veux bien, fromage, etc., etc. Ça ne nous convenait pas, on le digérait mal. Et moi, j'étais en Australie à cette époque-là. Et du coup, mes clients, bah, c'est pareil, on était un peu confrontés au même problème. Et quand je suis rentré après en France, on en a discuté, on a dit OK, on va monter une marque. Et le but, c'était de trouver un truc naturel qui soit bon. Et du coup, bon, on est resté dans cette philosophie-là jusqu'à présent. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai pas mal de membres dans l'académie qui en consomment parce que quelque part, bah, moi, je consomme ce qu'il y a de mieux pour moi. Et du coup, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et du coup, on l'a fait nous-mêmes, quoi. Et on a sorti les barres protéinées qui sont super et qui sont extraordinaires. Du coup, on est très contents là-dessus. Mais ouais, en gros, il y a un lien. Il n'était pas vraiment voulu, mais c'est que je baignais dans l'industrie du sport depuis longtemps et que quelque part, bah, tu as à la fois l'entraînement, le mindset, ce que tu veux, puis tu as aussi l'aspect bah, complément alimentaire qui peut rentrer en jeu aussi, comme a fait un peu Christophe Cario. Au final, je suis sûr que tous ses clients qui achètent ses programmes muscu, ils achètent aussi sa marque. Hein, donc, je pense que ouais, c'est lié. Mais ce n'était pas voulu au départ, mais c'est lié, ouais, très clairement.
Ok, et du coup, ce qui te fait, encore une fois, comme je disais, d'apporter le client qui rentre aujourd'hui dans la Playbook Academy, il a à la fois tout l'accompagnement mental, physique, mais s'il le souhaite, bah, il y a ça qui a été fait aussi par Quentin.
Il y a ça aussi, ouais.
Pour la,
pour bénéficier de ça, ouais.
Franchement, c'est pas mal du tout. Par rapport aux outils que tu utilises pour gérer tout ça, parce que il y a autre chose, voilà, qui revient souvent, c'est les coachs sportifs, ils ont généralement, en France, je parle, et je peux te le dire parce que vraiment, je le sens pas mal, ils ont, ils sont pas toujours OK pour investir dans des outils pour leur faciliter et développer leur activité. Toi, tu vois, Teachable, c'est une plateforme qui coûte quand même, c'est une plateforme mensuelle, donc c'est quand même un petit coup, c'est un petit investissement. C'est quoi, toi, les outils dans lesquels t'as investi et que tu utilises, et si tu pouvais détailler leur prix aussi par rapport à tout ça, si tu les as en tête.
Au début, je cherchais le gratuit, forcément. Et tu t'aperçois vite que tu peux pas avoir que du gratuit si tu veux du quali en plus de ça. Tu vois, par exemple, Zoom au début, pour faire du one-one, c'est gratuit. Mais quand tu veux faire du check-in de groupe, faut payer. Donc, j'utilise le Teachable du coup pour héberger. Teachable, le plan pro, il est à 100 balles par mois. Il y a Zoom qui coûte pas cher. Zoom, 115 euros l'année, je crois. Quelque chose comme ça, j'ai payé. Donc, c'est pas très cher. Donc, ça fait, je crois que c'était, je crois que c'était quelque chose comme 13 euros par mois. Ça revient à quelque chose comme ça. Donc, j'ai dû payer 150 euros. Genre, je sais plus exactement, mais c'est à peu près ça. Alors, il y a ça. Tu sais quoi, j'ai fait une liste même. Je vais te la donner.
Bah, putain, c'est parfait.
Vu que je track mes dépenses, je le note quelque part, quoi, de me dire combien ça me coûte.
Pour que les coachs vraiment aient en tête pour optimiser en fait ton activité, ton temps et délivrer une meilleure expérience de coaching à tes clients, tu vois, t'es obligé d'investir dans des applications. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des applications qui sont là. Bon, il y a forcément Gymkey vu que c'est la nôtre, mais tu vois, il y en a plein d'autres et pas forcément la nôtre. Il y a plein d'outils qui te permettent de te faciliter la tâche, de te faire gagner un max de temps et d'augmenter la valeur perçue de tes clients pour un investissement qui n'est pas forcément déconnant.
Oui, c'est ça. Donc, il y a Teachable, Zoom, c'est 15 euros par mois. J'utilise Calendly aussi, la version payante, parce que du coup, je fais des check-ins de groupe pour que ce soit booké en groupe. Donc, c'est payant, mais bon, 8 euros par mois, c'est pas grand-chose. J'ai Canva qui me permet de créer des visuels facilement, rapidement, parce que c'est 12 euros par mois. Ça, avant, je faisais du Photoshop. Autant je sais me servir de Photoshop, autant c'est vachement plus chronophage que Canva.
Ouais.
Donc, j'ai pris Canva. J'ai ConvertKit pour les mails. Alors, il y en a qui utilisent des trucs comme GetResponse ou LeadPay. Non, je sais même plus. Bah, bref, c'est.
Le MailChimp,
des trucs comme ça. MailChimp, etc. MailChimp, j'aimais pas pour en tout cas ce que je faisais, c'était pas adapté. Le truc cool avec ConvertKit, c'est que c'est intégrable nativement avec Teachable. C'était la simple bonne raison pour moi. Je suis parti sur ConvertKit. En fait, ça me coûte. ConvertKit me coûte 24 euros par mois à peu près, vu que c'est en dollars, tu sais, ça change en fonction des mois. Des fois, c'est 23 quelque chose, des fois, c'est 25. J'ai Spotify. Alors, Spotify, c'était plus sur un plan perso, mais ça me permet aussi, je crée des playlists, Playbook Academy, en fait, avec le logo et tout, et je les partage aux membres, en fait. Donc, les
T'as
mecs,
totalement
ils sont
raison. T'es le deuxième coach à faire ça.
Ouais, voilà. Ils sont en déj de motivation, bah, ils mettent la playlist Playbook Academy, puis c'est parti, quoi. Ça, je trouve que c'est cool. En récurrent, c'est. Oula, merde, un appel. Putain, c'est con. En plus, il faudra que je le prenne celui-là, mais après, c'est à peu près tout. Ça fait en gros 150 balles par mois à payer. C'est pas énorme, ça va, ça se tient. Et puis là, ce que j'ai fait, donc pour booster encore plus le sentiment d'appartenance au groupe, c'est le merchandising. Donc, faire, comme je te disais, designer des snapbacks et des tank tops, des débardeurs d'entraînement que j'ai designé moi, que j'offre le débardeur aux gars qui prennent le coaching. Ceux qui sont là en tant qu'anciens élèves et qui n'ont pas pris le coaching, qui sont rentrés direct sur la plateforme ou quoi, eux, ils peuvent les acheter, mais bon, c'est pas cher. Le but, c'est pas de m'enrichir dessus, c'est surtout de leur fournir un service, parce que moi, je vais juste couvrir mes frais avec ça. Et voilà, quoi. Et du coup, c'est fun, parce que ça permet d'avoir
ça qui fait, quoi.
Dans ce groupe, et ouais, ça me fait kiffer. En vrai, c'est juste, c'est cool. Tu sors une marque de vêtements fun. Enfin, c'est pas pour tout le monde, c'est juste pour les gars qui sont dans l'académie, quoi. C'est parce que je pensais, tu sais, pour en revenir au truc de l'aspect université américaine, je sais pas, tu vas à Stanford, tout le monde a un t-shirt Stanford, tu vois. Et c'est le but, c'est ça.
C'est que là, tu es dans la Playbook Academy.
Et puis, tu as l'appellation aussi. Donc, tu as, je sais pas, par exemple, Florida State. C'est Florida State, c'est le nom de l'université. Et c'est FSU, donc Florida State University. Mais l'équipe s'appelle les Seminoles. Bah là, vu que c'est de l'entraînement dit hybride, moi, je les appelle les Hybrids. Donc, en fait, c'est la Academy Hybrids, tu vois.
Ok. T'as cette mentalité qui est partie dans ton délire de football.
Ouais, je fais du foot américain, ça me colle à la peau, donc c'est le délire. C'est plus, en effet, c'est plus nord-américain comme mentalité qu'européenne, mais on se marre bien, les gens s'y retrouvent et ils trouvent quelque chose de différent qui les fait évoluer sur un plan différent, et ça, mine de rien, ça fait la diff.
Ouais. Et tu kiffes juste ce que tu fais, quoi, tout simplement.
Ça te permet de kiffer. C'est pas du travail. C'est pas du travail. J'ai des check-in avec mes gars à 20h30 le dimanche soir, c'est pas du travail.
Ouais.
Je me marre pendant une heure avec eux.
C'est comme tu l'as dit, en fait. C'est comme si tu étais entre potes. Et l'investissement que tu fais là, par exemple, les 150 euros, est-ce que ils sont, à quel point tu estimes qu'investir dans ces outils, ça te fait gagner du temps par rapport.
C'est indispensable. Ouais. C'est indispensable. Parce que si tu n'as pas une plateforme pour héberger ton contenu, que ce soit Gymkey ou Teachable ou n'importe quoi d'autre, c'est une valeur ajoutée énorme que de proposer ça. Si tu vends encore des PDF, le problème surtout, il n'est pas enfin, je dirais que le souci, il est de se différencier parce qu'aujourd'hui, on est dans un milieu tellement compétitif que si tu ne sais pas proposer autre chose que des... Tu vois, s'il n'y avait pas de concurrence, tu peux vendre tes PDF, ça a marché une période quand il n'y avait personne. Maintenant qu'il y a tout le monde et que tout le monde propose du contenu de plus en plus quali, si tu te pointes avec tes PDF, tu fais pitié, mon gars. Les gens, ils vont dire, ça n'a pas de valeur. Pourquoi je vais payer 150 balles à lui alors que je peux payer 150 balles à lui qui a une appli et machin? Évidemment, la valeur perçue, c'est le plus important. Ouais. C'est que le mec se dise, putain, je viens dans un truc, le mec fait pas semblant, quoi. Et c'est ce que je veux que les gars se disent, parce que quand je les ai en appel, ils n'ont pas encore eu accès à la base de données, à l'application, quoi. Et quand ils ont accès, ils me disent, putain, t'as pas chômé, quoi. C'est vraiment quali. Tu fais, bah ouais, je t'avais dit. Je veux pas que le mec soit déçu, au contraire, il se dise, ouais, bon, en fait, il n'y a que dalle, laisse tomber, quoi. C'est vraiment important.
Et du coup, la valeur perçue colle à la valeur que tu apportes, quoi. Et mine de rien, c'est tout cet aspect-là aussi qui te permet de facturer plus cher. C'est d'avoir tout ce combo qui fait que tu as investi, tu essayes au maximum, en fait, d'apporter de la valeur, et du coup, en fait, de faire monter à chaque fois la valeur perçue qu'il peut avoir. Et du coup, quand tu es même plus à l'aise, tu parlais tout à l'heure au début, tu étais beaucoup moins à l'aise, mais je pense qu'aujourd'hui, tu l'es beaucoup plus parce que tu sais vraiment ce que tu es capable d'apporter et la valeur que tu apportes sur la table, parce que tu sais que tu as construit un écosystème complet qui permet de vraiment avoir des résultats. Donc, tout ça, en fait, c'est encore une fois, c'est toute une question, comme tu l'as dit et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de valeur perçue et de valeur que tu apportes. C'est tout ça, en fait. Si aujourd'hui, d'ailleurs, je ne t'ai pas posé encore la question cruciale du prix, comment t'es arrivé, je pense que ce sera tu en as parlé un peu, mais que tout ça, en fait, c'est ce qui permet déjà à toi de te donner une confiance, de pouvoir être solide quand tu vas proposer ton prix et de ne pas baquer si jamais il y a quelqu'un qui essaie de négocier, de dire bah écoute, soit tu payes ça, soit tant pis, en fait, tu peux aller voir ailleurs si tu veux et d'être solide là-dessus.
J'ai personne qui essaie de négocier, mais ouais.
mais ce que je veux dire, c'est que même si on négocie, t'es tellement sûr de la valeur que t'apportes, tu dis bah non, moi c'est tant par mois. Si tu veux pas payer tant, c'est pas grave. Bah déjà, t'as ce programme qui est dispo, qui est un peu moins cher si tu veux, qui peut répondre à tes budgets. Mais sinon, voilà, pour intégrer ça, c'est minimum ça et ça passe pas. Mais le reste, c'est mort. D'ailleurs, toi, tes prix, est-ce que tu peux nous détailler un peu le prix et les prix, la structure de pricing que tu as pu mettre en place, Quentin?
Ouais, je vais te donner de l'à peu près. Alors, ça a changé, ça a évolué avec la demande et à la fois avec... au début, j'étais vraiment pas cher pour avoir mes premiers clients. Mmh. C'était genre, je faisais payer à peu près 80 euros par mois. Après, c'est passé à 100, 110, etc. Ça a commencé à monter comme ça, mais c'était pour créer la première vague, en fait. Que j'étais tellement pas serein sur mes prix, je savais pas où me positionner. Loan me disait, mais mec, ton suivi vaut 200 balles par mois, quoi. Mmh. Moi, j'étais là, mais moi, je suis pas à l'aise avec tout ça. Et là, je me stabilise dans les alentours, je dirais les alentours de 150-ish euros par mois. Mmh. Et on me dit encore que c'est pas assez cher. Mmh. Donc, pour le moment, moi, je reste là parce que c'est des prix sur lesquels je trouve que je suis relativement confort. C'est des offres parce que je pourrais être à 200 balles, mais je le fais pas encore. Et je pense que peut-être que quand je serai saturé, je dirais ok, maintenant c'est 200. Peut-être plus, j'en sais rien, mais je pense que ça les vaut parce que plus je travaille dessus, plus je me dis que ça les vaut. Mmh. Parce qu'au début, tu te dis putain, quand même, je fais payer 100 balles par mois et tout, ça fait chier, c'est cher. Ouais, mais j'apporte tellement derrière et la transformation derrière que tu chopes, elle a pas de prix parce qu'elle est pas juste, tu vas rentrer dans un pantalon d'une taille en dessous. C'est pas juste ça. Tu vas beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça, après, je me suis dit, mais pff, voilà, il faut se pricer. Et puis, une fois que les mecs sortent de ça, ils ont un tarif généralement, tu sais, pour garder l'application, en fait, avec tout, sans le coaching, ils vont être aux alentours de 40 euros par mois après, en maintenance. Ils ont toujours accès à moi, mais pas dans des points, pas en check-in visio, mais s'ils ont des questions, je leur réponds. Je suis pas un crawler, quoi. Je les aide. Ils ont été là et voilà, ils sont toujours là. Et même s'ils payent un plus petit fee, bah, je suis là pour les aider.
Et comment est-ce que tu as déterminé, tu l'as dit que c'était par rapport au texte, mais comment est-ce que tu en es arrivé la dernière fois que tu as déterminé un prix, comment est-ce que tu dis, là je vais partir sur ça par rapport à ça, ça et ça?
J'en sais rien. Au début, c'était...
j'ai tiré une boule que de choses.
Je parlais un peu avec Loan, tu sais, au début, j'étais pas serein, j'étais putain, comment je fais? Quand je faisais payer 80 balles par mois, j'étais là, mais putain, ok, c'est cool. Mais au final, je m'y retrouvais pas. Tu vis pas. Il faut être à un certain moment, il faut être rentable déjà parce que pour prendre du plaisir dans quelque chose, il ne faut pas être dans la pénurie. Parce que si tu es dans la pénurie, que tu as des mecs qui t'envoient des questions toute la journée et que toi, tu n'en vis même pas, tu dis mais putain, je peux pas. Et du coup, il faut être épanoui. Il faut être sur un prix avec lequel tu es à l'aise, qui va te permettre toi d'être assez investi pour que ça en vaille la peine. Et du coup, tu seras beaucoup plus... Tu auras le smile quand tes clients t'envoient des messages, tu n'auras pas « Ah, fais chier, machin, il faut encore que je l'aide ». Parce qu'ils payent que tant par mois, tu vois. Donc là, c'est des prix, quand t'es déjà à 150 plus par mois, je me dis que t'es investi déjà. Parce que quand tu payes, de toute façon, il n'y a pas à chier, je te donne le truc gratuitement, tu ne vas pas le faire. Ouais. Quand tu payes, tu as cette notion de putain, j'investis sur moi-même, je vais arrêter de faire le con et je vais vraiment m'investir. Et c'est aussi ça sur quoi je compte, c'est que ces mecs-là ne me fassent pas des plans à dire je me suis entraîné qu'une fois cette semaine et je les incendie quand ils me disent ça. Ouais. Tu commences à t'entraîner qu'une fois par semaine. T'as mec, tu payes 150 balles plus par mois et tu mets pas les chances de ton côté, t'es con quoi. Enfin, en faisant ça, tu me rends pas service. Enfin, c'est pas à moi que tu rends pas service, c'est à toi. Donc c'est comme ça. J'essaie de leur faire prendre conscience que quand tu payes un truc, c'est du premium, donc tu l'appliques à la règle. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je suis très sélectif parce que je veux pas que ça parte dans tous les sens et je veux des gars qui soient là, déterminés et qui me le prouvent. Déjà, juste le fait de passer un certain palier monétaire, c'est que tu m'as prouvé déjà quelque chose. Parce que les mecs qui me disent ah ouais je m'attendais à 50 balles pour que je te fasse un suivi tout le temps, est-ce que tu te rends compte à quel point moi je suis investi et que je te suis pour 50 balles par mois? 50 balles c'est même pas le prix de moi une heure dans une salle de sport avec toi. Donc là ce genre de choses en Australie c'était au minimum 100 euros par heure pour moi dans une salle de sport avec toi, avec l'expérience que j'ai accumulée, tu vois, et les approches internationales que j'ai. C'est pas pour être arrogant ou quoi, mais il y a de l'expérience et ça se paye à un moment. Et c'est pour ça. Donc, il y a un moment où Loan m'a fait comprendre qu'en effet, il fallait que j'arrête d'être trop gentil et que je me sous-estime parce que ça vaut le prix. Et quand je voyais qu'il y avait des mecs qui font de la merde et qui vendent ça à 150-200 balles par mois, je me dis, mais vous faites quoi? De la perte de poids encore? mais du coup, c'était ça. Je me suis dit, mec, il faut arrêter d'être cheap parce que t'es pas cheap. Ton entraînement est pas cheap. Ta philosophie est pas cheap. Et toute ta plateforme, tout ton contenu est pas cheap. Loin de là. Et même là, tu vois, j'avais un coach qui rejoint le mois prochain. C'est un coach, le mec, qui veut en apprendre plus, tout simplement, et qui veut se diversifier sur ses méthodes. Je lui ai dit 150 balles. Et vu que lui, il est coach déjà, il sait comment. Il m'a dit, mec, c'est pas cher. Et là, j'ai dit, OK. Quand t'es pas dans l'industrie et qu'on t'annonce ce prix-là, potentiellement tu t'attendais pas à payer ce prix-là et tu te dis eh, c'est un peu cher pour moi. Tu dis ok, mais à quel point est-ce que t'as envie d'y arriver aussi? Est-ce que tu veux changer ta vie ou est-ce que c'est pas grave, tu vas aller tout seul t'entraîner? Il y a ça aussi. Hein. Tu peux, et bonne chance à toi si tu décides de faire ça. Mais si tu décides là d'investir sur toi, c'est comme si t'achetais une formation, c'est comme si t'achetais des livres, beaucoup de livres hein, à ce prix-là. Mais ouais. Du coup, disent ok, je me mets à 4000% et je veux être une personne changée, je veux que mon identité shift et que je devienne meilleur. Et il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire. Et du coup, bah, est-ce que tu es prêt à le faire ou pas? Est-ce que tu es prêt à passer le pas ou pas? Parce que si toi tu es investi, moi je suis investi autant que toi. Donc c'est du donnant-donnant. Donc mine de rien, évidemment qu'il y a un prix, mais derrière je suis investi aussi et je suis pas là pour chômer. Donc quand les mecs me posent des questions tous les jours, je réponds le jour même. Hein, quand ils m'envoient des questions, je check mes mails une fois par jour. Le mec m'envoie un message sur Insta, j'ai quand même supprimé les notifications Instagram, sinon c'est ingérable. Mais du coup quand j'allume, j'ai peut-être avoir 10 messages et je vais tous y répondre d'un coup, comme ça c'est fait, et je réponds, j'attends pas le lendemain ou le surlendemain, parce que le gars il a peut-être besoin de toi tout de suite, il est peut-être bloqué sur une séance. Bah, tu lui dis ok, comme ça je débloque ça, et même si ça va me prendre que 5 minutes, bah, ça montre aussi une certaine réactivité, un engagement de ma part.
Non, je t'ai laissé parler parce que c'était ultra pertinent par rapport à tout ça, à ce choix en fait, à comment est-ce que tu exprimes et que tu montes la valeur que toi tu peux apporter, parce qu'encore une fois, c'est l'une des plus grosses problématiques des coachs sportifs aujourd'hui, c'est voilà, c'est d'exprimer en fait la valeur et d'être capable en fait de montrer voilà que le coaching qu'il propose, il vaut, s'il le vaut tout simplement, ce prix-là. Tu vois,
ouais.
Et c'est ultra, ta façon de l'expliquer, elle était ultra pertinente, donc c'est pour ça que je t'ai laissé dérouler depuis tout à l'heure, que je te laisse dérouler à mort, parce que c'est ultra pertinent, et avoir ton point de vue là-bas, c'est de ce côté-là, c'est quelque chose qui est ultra intéressant et qui va quand même en aider plus d'un. D'ailleurs, toi, si tu devais donner un seul conseil au coach sportif, ça serait quoi?
Un seul conseil, c'est de se former déjà, c'est de se nicher, de se spécialiser. Parce que de faire « je fais tout », je t'aide à prendre du muscle, je t'aide à perdre de la graisse, tout ça, ça ne fonctionne plus à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y a trop de concurrence. Et que je prends souvent un exemple tout bête. Imagine que tu sois une femme enceinte et que tu veuilles continuer à t'entraîner. Vers qui est-ce que tu vas te diriger? Est-ce que tu vas vers le mec mainstream qui sait tout faire, ou est-ce que tu vas vers la personne qui ne fait que les femmes enceintes? Évidemment que tu vas aller vers le spécialiste. C'est pour ça que c'est pertinent de se spécialiser. Il y a beaucoup de gens qui, là j'interviens parfois dans l'école de coach Efficiencia à Chambéry, je vais y aller d'ailleurs la semaine prochaine, et je leur dis ça parce qu'à chaque fois ils savent pas où aller, les mecs. Quand ils sont en BPJEPS, ils pensent qu'ils vont être en mesure de tout faire. Mais mec, c'est pas le cas. Si tu fais tout, tu seras toute ta vie un coach dans la pénurie, qui a pas de thunes, qui pourra pas faire payer cher. Parce que regarde, quand tu vas chez un chirurgien esthétique, ou j'en sais rien, un chirurgien, un mec qui est spécialisé, tu vas payer une blinde, mais il n'y a que lui qui fait. Tu vas chez son médecin généraliste, ça va te coûter 20 balles.
Ouais.
Sauf que le médecin généraliste, il est un petit peu bon partout, mais il est excellent nulle part. Parce qu'il n'est pas spécialisé. Et c'est exactement pareil chez les coachs. Donc, je pense que c'est ça le point majoritaire, c'est de se remettre en question à ce niveau-là. Qui est-ce que je veux aider et pourquoi? Et pas dire je sais tout faire, parce que ça, c'est faux. Tu ne sais pas tout faire. Où est-ce que tu es le meilleur dans ce cas? Spécialise sur ce qu'il fait. Évite de penser monétaire avant tout, parce que ça marche que court terme. De dire ah, je vais aider les femmes en perte de poids, parce que c'est exactement et si ça t'intéresse, ça t'intéresse, c'est ça que je veux dire. Par contre, faut pas, voilà, moi j'aime pas ça, mais peut-être que toi tu détestes ça et que tu vas le faire quand même juste parce que tu penses que c'est lucratif. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Tu fais la perte de poids aux femmes si ça te fait kiffer, c'est surtout pour ça. Il faut aller vers un domaine qui te fait kiffer pour pas avoir l'impression de bosser, parce que si tu te forces à bosser, ça va pas te plaire longtemps. Et ça va se ressentir.
Ce qui est dingue, c'est que ça revient là sur tous les épisodes qu'on a fait. C'est exactement le même conseil qui revient tout le temps. C'est de trouver sa niche et de se focus dessus. Et d'ailleurs, c'est l'une des vidéos qui a le mieux marché sur la chaîne Dumki, c'est comment trouver sa niche. Et mine de rien, ça peut sembler contre-intuitif. D'ailleurs, je suis en train de la tourner en anglais, c'est pas facile du tout, Quentin. Je suis en train de la tourner pour le marché anglais, c'est pas facile. C'est pas évident de tourner des vidéos en anglais, mais en tout cas, ça peut clairement sembler contre-intuitif de se focusser sur une niche, mais comme tu l'as dit, en fait, c'est l'une des meilleures choses que tu puisses faire, tout simplement. C'est parce que tu vas acquérir une certaine expertise sur le fait de répondre voilà, à cette problématique-là pour ce type et cette typologie de personnes. Et ce qui fait que en fait, les gens ils vont venir voilà, pour toi, pour ça. Et à la limite, si jamais tu as envie de prendre des gens qui sortent hors de ta niche, comme tu l'as fait entre guillemets pour ta Playbook Academy, c'est de proposer bah, des programmes à côté sur des choses en fait, tu peux gérer, sur de la perte de poids, sur des trucs qui sont autres que ce qu'il y a sur ta niche, et le proposer en programme annexe, entre guillemets, mais pas en coaching, mais voilà, en programme annexe.
Tu peux, ouais.
Donc, ça permet de faire tout ça. Mais en tout cas, le conseil, voilà, c'est encore une fois, focus sur une niche, focus sur une niche, et encore une fois, focus sur une niche. Quentin, on a fait le tour. Hein. Je pense que c'est nice. Déjà pas mal. T'as pu échanger sur pas mal de points. T'as pu lâcher quelques pépites aussi. Je pense que ça va intéresser pas mal de coachs sportifs. Il y en a pas mal qui vont pouvoir en apprendre sur toi, sur comment t'as géré ça et sur ta façon de coacher. À chaque fois, on me demande aussi, on me pose la question, est-ce que tu ramènes des coachs qui sont que sur Gymkey? Alors non, Quentin, il n'est pas...
C'est vrai que je suis sur Gymkey, mais on en a quand même discuté. Ouais. Et c'est vrai que Gymkey n'était pas adapté à ce que je fais aujourd'hui. Exactement, mais ouais. Que je n'étais pas contre sur l'idée. Quoi. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, Teachable, pour ce que je fais, c'est plus adapté. Il y a tellement de contenu que j'ai mis moi dessus que si le jour où j'étais amené à faire une transition, ça serait vraiment la merde. Donc, je suis un peu coincé.
On posait tout le temps la question et tu vois, ça revient à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Tu vois, j'ai pas essayé de te forcer à rester. C'est, encore une fois, pour remettre en fait en question ce truc de niche, tu vois, t'étais pas un bon fit et tout de suite c'était ouais. Écoute Quentin, écoute, on va pas pouvoir t'aider. T'es très bien là où t'es. Reste là-bas pendant le plus longtemps que tu peux. Mais c'est encore une fois ultra intéressant d'avoir ce point de vue-là et aussi de dire que voilà, les coachs qui viennent sur dans la tête d'un coach sportif, c'est pas que des coachs qui sont sur Gymkey. Donc voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Quentin, de ton côté?
On peut sur les réseaux. Quentin Randy sur Instagram. Tu sais, l'anecdote, c'est que j'avais le prénom Quentin sur Instagram. Okay. Juste...
Ah, tu l'as plus?
Je me suis fait pirater. Ah, c'est con, hein, c'était il y a 2 ans. Okay. J'avais réussi à le choper, je l'avais payé et tout. Bon, je l'ai pas payé cher, hein. J'ai payé 100 balles à un mec. Mais je me suis fait tirer, j'avais bien le seum. Hein. Mais du coup, c'est Quentin Randis, tout accroché, okay. C'est tout. Et mon site, c'est quentinrandis.com. Mon podcast, c'est là où je parle le plus, que je parle pendant presque 1 heure à chaque fois. C'est Biceps and Mindset, donc biceps et mindset, tout simplement. C'est très simple. Et c'est à peu près tout ce que
mon YouTube... Qui est partout, le podcast, d'ailleurs.
Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, absolument. Et mon YouTube, je ne l'update plus, donc il ne va pas se passer grand-chose là-bas. Mais il y a potentiellement des vidéos qui peuvent aider ou inspirer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, le plus facile pour me contacter si besoin, c'est Instagram, ça c'est sûr, okay. C'est là où je suis actif. Mais là où je drop le plus de knowledge ou quoi, c'est le podcast, vraiment.
Je vais mettre les liens du podcast sur les différents... Tu passes par Anchor, toi, ou tu passes par un autre... Ouais. Bah, je vais mettre le lien du Anchor directement dans la description pour, pour ceux qui veulent aller voir un peu sur toutes les plateformes. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour finir? Ça fait longtemps que je n'ai pas posé cette question, je ne l'ai pas posé aux deux derniers invités. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, ouais, nous, Quentin?
Enfin, qu'on m'a demandé ça, je ne savais pas vraiment quoi dire. Parce qu'il faut, je dirais, me souhaiter, c'est que je ne lâche pas. Je lâche pas. Parce qu'on peut très vite devenir feignant et procrastiner quand on est entrepreneur, c'est compliqué, et de se satisfaire de ce qu'on a. Et j'estime pas être satisfait de ce que j'ai aujourd'hui. J'estime que je pourrais générer beaucoup plus et vivre beaucoup mieux que je le fais aujourd'hui. Malgré tout, c'est quand même pas que monétaire, et au niveau humain, je m'y retrouve. Donc déjà, ça c'est cool. Et après, bah, j'aimerais avoir une plus grosse reconnue sur l'académie, qu'on en rentre encore plus de membres avec plus de coachs aussi. Ce serait vraiment cool et que ça prenne de l'ampleur, ça, ce serait génial. Et que mon podcast décolle et que je me fasse interviewer par un mec hyper connu, ce serait fun. Enfin, un mec hyper connu, il aurait mieux valu que j'ai quelqu'un en particulier. Mais moi, je voulais à l'époque me faire interviewer dans les podcasts américains, genre Lewis House et ce stuff. Je sais pas si ça arrivera. Alors si, j'aimerais choper Mark Fit. Podcast, donc je suis à une poignée de main de lui, dans le sens où je connais des gens qui le connaissent, donc potentiellement choper Mark Fit. Je chope un gars du Québec demain en interview, par contre, qui le connaît, donc c'est fun. Mais j'aimerais bien choper Mark Fit. Voilà, c'est un petit objectif tout con, mais histoire d'avoir de l'insight nord-américaine en français, donc ça peut être fun.
Bon, on te le souhaite du coup de le choper, c'est Mark Fit. Et du coup, merci.
Hein? Tu dis ce Mark Fit?
Non, justement, je voulais taper sur.
Commencer, moi, mon gars, c'est un mec qui a mon âge, qui fait ma taille en plus. Enfin, je l'ai rencontré, on est pareil. Sauf que lui, il est blindé et qu'il est explosé sur YouTube depuis 2012, quelque chose comme ça. Et ça a été ma grosse inspiration muscu à l'époque. Donc, tu regarderas,
J'étais en train d'essayer de taper sur YouTube en même temps, mais là, mon micro, il a décalé un peu, il a fait ça, je fais « Oh merde, j'ai pas lié.
C'est Marc, il s'appelle, son vrai nom, c'est Marc-André Bénard, tu vois, bien Québec, quoi. Mais c'est FIDOT, okay. Et le mec est super connu, il parle en anglais sur ses vidéos, par contre, parce qu'il est connu mondialement, mais ça a été une grosse inspiration, ouais.
Ok, bah, j'irai voir, je mettrai aussi le lien vers sa chaîne directement en description, vu que ça c'est la magie de la description, on peut tout mettre. Nickel, bah, je te remercie pour le... Là on est dans les temps, je te remercie pour le temps et pour le savoir que tu as pu partager avec nous aujourd'hui, Quentin. Je mettrai tous les liens pour les personnes qui veulent aller voir ce que tu proposes à la fois de ton site, de ton Insta et de ce qu'il y a derrière. Et bah, du coup, pour tous ceux qui sont restés, là ça fait 1h24 qu'on discute ensemble, donc pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin du podcast, félicitations, vous êtes... qu'à un clic de laisser la meilleure étoile sur les plateformes de streaming. Donc, on attend les 5 étoiles un peu partout sur Spotify, Apple Podcast. Je le dis vraiment parce que je le dis rarement, mais ça aide énormément.
Vous répétez tout le temps.
Exactement, ça aide énormément le podcast à bien se situer, à bien se placer. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, toutes les plateformes et sur nos minutes également, la nouvelle plateforme pour de podcast professionnel qui est quand même pas mal, hein. Donc bravo au fondateur. Et nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coach sportif. Et d'ici là, je vous souhaite à tous de très 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 bons coaching et surtout prenez soin de vous. Salut.
Ciao.